Vous écoutez
RMC.
5h-7h.
5-7. Le Morning RMC.
Élise Dangean, Mathieu Béliard.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur RMC et RMC Story. Bon réveil, bon début de semaine, bon retour Élise.
Merci, je suis tellement heureuse d'être avec vous. Bah ouais,
ça va ?
Très bien.
Tout va bien ?
Ouais.
Géraldine Demory.
Bonjour tout le monde.
Salut Géraldine.
J'ai même pas regardé la météo de la semaine, je vous dis, vous savez quoi ? La météo c'est dans deux minutes. Un peu de suspense.
Ouais.
Restez à l'écoute, moi-même je vais la découvrir. Vous êtes bien sur RMC, c'est parti pour une nouvelle semaine et on vous attend sur l'actualité comme sur les choses un peu plus légères au 32-16 et sur le WhatsApp RMC. On va revenir évidemment sur cette marche blanche de 6000 personnes à Florence hier dans le Gers, des rassemblements dans tout le pays. Aujourd'hui, le rendez-vous est donné à 19h devant les tribunaux du pays, un hommage à Liana mais aussi une façon de demander des comptes.
Des comptes à la justice, aux autorités, au gouvernement, parce que l'affaire ne passe pas, la mort de Liana évidemment, mais aussi le profil du suspect qui est visé par au moins 9 procédures. Ça continue de vous faire réagir ce matin au 32-16.
La réponse de Gérald Darmanin est-elle à la hauteur ? Il a présenté ses excuses au nom de la justice. Le garde des Sceaux ordonne le réexamen de 70 000 plaintes pour viol ou attouchement qui touchent des enfants et il donne au procureur jusqu'au 14 juillet pour le faire.
Je ne partirai pas en vacances. Et il n'y a pas un haut magistrat qui va partir en vacances tant que je n'aurai pas vu un par un les procureurs généraux pour qu'on fasse le bilan de sa cour d'appel, qu'on voit ce qui manque.
Les menaces de Gérald Darmanin, alors est-ce que c'est suffisant ? Et surtout la question, c'est maintenant, on fait quoi ? C'est l'injustice de trop, dit la cinéaste et militante Andréa Bescon, très engagée sur le sujet. C'est notre invitée à 6h40 dans le Morning RMC.
On reparle des prix des carburants ce matin avec les aides financières pour les artisans du bâtiment, le BTP. Après les agriculteurs et les pêcheurs, ouverture du guichet d'aide 20 centimes par litre de gazole non routier facturé au mois de mai pour les PME de moins de 50 salariés.
Alors, est-ce que vous allez faire la demande ? Dites-nous si ça vient combler les pertes de ces derniers mois. On vous attend au 32-16 là aussi. Selon les représentants du secteur, 10 000 emplois sont directement menacés par la crise au Moyen-Orient. Alors, est-ce que vous relevez un peu la tête ce matin ? Est-ce que ça baisse un peu ? Est-ce que ça baisse assez ? On vous attend en direct et sur le WhatsApp RMC 0612 424 424.
De la politique ce matin avec un premier grand meeting pour Jean-Luc Mélenchon et ses soutiens en région parisienne.
La première force politique de la gauche, la voici ! La primaire est finie !
Alors, le patron des Insoumis a promis le SMIC à 1 700 €, l'abrogation de la réforme des retraites et Jean-Luc Mélenchon s'est surtout présenté comme le seul qui puisse faire rempart à l'extrême droite.
Alors, est-ce que c'est le cas ? On vous attend au 32-16 ce matin sur le WhatsApp RMC. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est le meilleur candidat à gauche ? C'est déjà la présidentielle quelque part dans le Morning RMC.
Mais avant la présidentielle, il y a la Coupe du Monde. J-3 cette semaine, la grande fête du foot commence et vous ne manquerez évidemment rien sur RMC Radio officielle. Alors, est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous avez surtout rempli des grilles de pronostics ? Nous, on se prépare à RMC, en famille, entre amis, entre collègues, évidemment, et souvent sans débourser le moindre euro, on s'amuse bien.
C'est marrant, c'est bonne ambiance, c'est fun, c'est cool. Franchement, je suis à fond, donc j'ai trop hâte que ça commence.
Alors, est-ce que vous jouez entre collègues, tiens ? Est-ce que les grilles sont déjà remplies ? Racontez-nous les jeux, les pronostics, les lots à gagner, parfois, ou même les groupes WhatsApp qui vont avec, parce que ça va chambrer pendant un mois, je peux vous le dire. Clément vous attend au 32-16, on lit vos messages sur le WhatsApp RMC au 0612 424 424.
Bon, et en dehors des pronos, il y a toujours le jeu du mot caché dans le morning, un mot qui sort de l'ordinaire. Si vous l'identifiez, vous envoyez mot au 732-16. Alors, c'est le retour,
préféré,
oui, du cadeau préféré de Mathieu. C'est quoi, Mathieu ?
C'est le Winbot Mini 2 d'Ecovax, un robot lave vitrée de fenêtre automatique intelligent qui nettoie toutes les surfaces vitrées de la maison. Attention, hein. On oublie le miroir, la baie vitrée, ouais. Le petit plexiglas qui est à hauteur.
Oh, je le veux tellement.
Toutes les surfaces vitrées de
la
maison.
Jouer,
j'en rêve. En fait, j'en rêve. Je le vends tellement bien qu'ils vont m'en offrir un jour quand même. Vous envoyez mot quand vous entendez le mot caché. Mot au 732-16. Parce que moi, je suis un gars comme ça. Moi, je lave les vitres. Moi, je suis pas un salonnard. Moi.
C'est vrai, Mathieu.
Je veux le robot de la vie.
Bon, allez, on va regarder le temps du jour de ce début de semaine, Géraldine. Ça s'annonce comment ?
Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'il va faire très beau et très chaud ce week-end. Mais en attendant, pour aujourd'hui, ce lundi, ça va être assez perturbé. On a une perturbation qui arrive par la Bretagne, qui va donner de la pluie entre la Bretagne, les Pays de la Loire, l'Île-de-France, les côtes de la Manche. Et puis, on va avoir des orages des Pyrénées au Massif central jusqu'au Grand Est, des orages qui seront parfois forts, notamment autour du Massif central, avec des risques de grêle. Pour avoir du soleil, on sait qu'il faudrait être près de la Méditerranée aujourd'hui. Les températures sont très contrastées entre l'Est et l'Ouest. Cet après-midi, il fera jusqu'à 31 degrés à Grenoble, 30 à Lyon, 28 à Marseille, 25 à Toulouse. On aura en revanche 22 degrés pour Paris, Bordeaux, 20 à Lille ou Nantes, 16 degrés pour Brest.
Il est 5h sur RMC, RMC Story. Très bon réveil à tous.
5-7, le Morning RMC.
Et à 5h, c'est le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Élise, bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Et à la une, l'émotion à Florence.
6000 personnes lors de la marche blanche hier en hommage à Liana. On va y revenir avant des rassemblements ce soir devant les tribunaux partout en France et une réunion des procureurs généraux convoqués au ministère de la Justice ce matin. Vous allez voir qu'il y a eu reprise des échanges de tirs cette nuit entre Israël et l'Iran au Moyen-Orient. Ça reprend en première depuis le cessez-le-feu. Et le sacre des handballeuses de Metz, on va y revenir, sacrée championne d'Europe pour la première fois de leur histoire hier en Hongrie.
Ce sont près de 6000 personnes qui ont participé à la marche blanche hier après-midi à Florence.
Oui, cette petite ville du Gers où vivait la jeune Liana, 11 ans, avant qu'elle ne disparaisse et que son corps soit découvert dans un silo à grains de la région. Victor Girard sur place pour RMC, beaucoup d'émotions et ses parents ont pris la parole.
Sa pancarte serrée contre elle dans le cortège.
Paix et justice, je suis Liana.
Alicia, 12 ans, tenait à participer à cet hommage.
C'était une copine à moi au collège, discutait dans la cour.
Pourquoi c'était important pour toi de venir?
Pour pas qu'on l'oublie et qu'on lui dise au revoir.
Moi, je suis venu, un soutien aux parents, Christophe, je suis le papa d'Alicia. Même à leur place, il n'y a même pas de mots en fait pour décrire. Ça aurait pu arriver un de nos enfants.
Le cortège, vêtu de blanc, avance en silence. Il passe devant le collège où fleurs et bougies s'accumulent. Puis la tante de Liana prend la parole à l'arrivée.
Et au nom de toute notre famille, merci infiniment pour elle.
L'hommage prend fin et au milieu de la foule d'anonymes, Jessica peine à contenir ses larmes.
Le fait de voir que autant de personnes sont réunies pour une petite fille, c'est compliqué de contenir sa tristesse, sa peine, sa haine.
Une colère largement partagée, Isabelle et Didier espèrent eux que cette marche servira d'électrochoc.
Et que tout le monde va se remuer et que ça se reproduira plus.
On donne les moyens d'avoir des gens qui sont là pour protéger les enfants à l'école et tout ça.
Des revendications que beaucoup iront porter dès ce soir lors d'un rassemblement à 19h devant le tribunal d'Auch.
Oui, parce qu'associations et collectifs appellent à se réunir ce soir à 19h, en effet, devant les tribunaux de France. Une centaine de rassemblements sont d'ores et déjà prévus pour dénoncer l'injustice de trop à travers cette affaire. Le suspect du meurtre faisant l'objet de 9 procédures, d'après le décompte de BFM TV. Alors avant ça, ce matin à 8h30, eh bien c'est le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, qui convoque à Paris une trentaine de procureurs généraux. Lui qui met la pression sur les magistrats et leur ordonne de reprendre les 70 000 plainte concernant des enfants d'ici au 14 juillet, sans quoi personne ne partira en vacances cet été. Constance Bostoen, vous nous dites pour RMC que les magistrats prennent assez mal le fait d'être pointés du doigt comme ça. Vous avez recueilli le témoignage RMC, sa voix a été modifiée d'un procureur.
Ce procureur ne cache pas son inquiétude après les propos tenus par Emmanuel Macron et Gérald Darmanin.
J'ai suffisamment d'expérience pour savoir que louper ça arrive. Mais je sais parfaitement que ça peut arriver à n'importe quel moment. Quand un garde des Sceaux s'excuse à l'avance pour nos dysfonctionnements à nous, moi ça me choque. On sait qu'on va être les boucs émissaires de toute façon et que personne ne nous protégera. C'est vraiment une crucifixion publique. C'est quelque chose qui nous angoisse.
Il regrette aussi une surcharge de travail due au nombre trop important de circulaires émises par le gouvernement. L'Union syndicale des magistrats en décompte 42 depuis le début de l'année 2025.
J'ai 30 ans d'expérience, fait 15 ans que je suis procureur de la République, je n'ai jamais connu une situation pareille. Absolument tout est une priorité et objectivement rien ne fonctionne en réalité. Et puis le problème, c'est que là, on est les otages d'un enjeu politique.
Dans l'affaire Liana, les premières conclusions d'une mission d'inspection devraient être rendues sous 15 jours, mais il assure que pour certains de ses collègues, il est déjà trop tard.
Beaucoup veulent quitter le parquet. Ils le feront. Hein. Là, ça a cassé quelque chose.
Alors je ne sais pas si ce matin au 32-16, quand on écoute les débats de la semaine dernière, le caractère bouc émissaire des procureurs sera celui qui vous inquiète le plus. Mais il faut entendre ce que dit ce monsieur quand même. Tout est une priorité et rien ne fonctionne. Voilà ce que dit la justice, voilà ce que répondent des agents de la justice, si j'ose dire, à Gérald Darmanin, qui menace pas de vacances, 70 000 dossiers à évaluer, à réévaluer avant le 14 juillet. Alors, est-ce que vous y croyez? Est-ce que c'est ça que vous attendez? Vous nous le dites au 32-16 ce matin.
Il est 5h04 sur RMC. On en vient à cette polémique dans une école maternelle de Montreuil, près de Paris.
Oui, où une vidéo montre un spectacle d'enfants, des enfants en tenue militaire, arborant des pistolets à eau lors d'un spectacle de fin d'année. Des images jugées choquantes, Léonie Guilbeault.
T-shirt à imprimé camouflage militaire, lunettes de soleil sur le nez et pistolet à eau multicolore à la main. Sur les images, 7 enfants dansent sur le très populaire titre chargé. La vidéo est captée depuis le public où les parents applaudissent. Certains chantent même les paroles « Sortez les armes chargées ». Des images choquantes selon le ministre de l'Éducation nationale. D'après nos informations, cette scène se serait bien déroulée durant un spectacle de fin d'année en maternelle avec pour thème les pacifismes au XXe siècle. Les enfants auraient ensuite retiré les tenues militaires pour dévoiler des t-shirts blancs avec le symbole Peace and Love, ce qui n'est pas montré dans l'extrait. Le ministre, qui n'exclut pas des sanctions, indique avoir demandé au recteur de l'Académie de Créteil de faire toute la lumière sur les faits.
Je vous le disais, les échanges de tirs ont repris cette nuit entre l'Iran et Israël, première depuis le cessez-le-feu au Moyen-Orient. Israël dit avoir été visé par des missiles iraniens dans la nuit avant de répliquer sur des installations militaires en Iran. Donald Trump appelle à la retenue depuis les États-Unis. Et alors, c'est dans ce contexte qu'ouvre aujourd'hui le guichet d'aide au carburant pour les artisans du BTP, désormais concernés, qui pourront bénéficier d'une aide de 20 centimes par litre de gazole non routier, avec un plafond quand même de 4000 euros par entreprise pour celles qui ont moins de 50 salariés, c'est ça Lougarnier.
C'est un sursis, annonce Vincent Gauthier. Il est à la tête d'une PME de 7 salariés spécialisée dans les travaux publics.
On consomme dans les 5000 litres par mois. On a eu quand même des tarifs à 70 centimes il y a un an du litre du GNR. Aujourd'hui, on a eu des factures à 1,70 €. Ça représente un petit accompagnement, on va dire.
Il devrait toucher 1000 euros d'aide au total. Alors, cette subvention du gouvernement est sous condition. Alexandre Mahou est électricien. Il emploie une dizaine de personnes. Lui n'est pas éligible car ses véhicules ne roulent pas au GNR. Pourtant, depuis le début du conflit au Moyen-Orient, son entreprise peine à faire face.
On est à moins 20% de chiffre d'affaires par rapport aux années précédentes. On avait en début d'année pas mal de prévisions de chantier qui ont tous été soit mis en stand-by, soit été arrêtés.
Il regrette une aide trop ciblée. Sans subvention, l'heure est aux économies.
On limite les investissements. On est clairement plus regardant sur la distance des chantiers. Avant, ce n'était pas du tout un critère. Aujourd'hui, ça l'est parce qu'on sait que ça va avoir un impact significatif sur nos marges.
Il l'avoue, si la situation perdure, il devra licencier des salariés.
Vous allez témoigner au 32-16 ce matin dans le bâtiment. En particulier, le secteur annonce 10 000 emplois menacés en lien direct avec la crise au Moyen-Orient. Est-ce que ces aides, vous allez vous en saisir? Est-ce qu'elles sont suffisantes? On vous attend au 32-16.
Scène de panique hier soir à New York. 6 personnes poignardées dans la gare de Penn Station, l'équivalent de Châtelet-Léal à Paris. L'auteur des faits a été arrêté, mais alors ça survient 24 heures avant le troisième manche de la finale de NBA qui aura lieu la nuit prochaine à New York et à laquelle doit normalement assister Donald Trump.
5h08, la France est encore championne d'Europe, mais cette fois en handball.
Oui, c'est le club de Metz qui a remporté hier en Hongrie la première Ligue des champions féminines de l'histoire du hand français, 31-29 contre le club hongrois de Győr, hein, c'est ça Kevin Morand.
Oui, et les Messines ont célébré pendant près d'une heure avec le virage jaune garni de leurs 700 supporters. Une joie à la hauteur de leur exploit, la demi-centre, Léna Granvaux.
C'est la première Ligue des Champions pour un club français, c'est complètement dingue. C'est fait aujourd'hui et on peut être fiers.
Dès le coup de sifflet final, les larmes ont coulé en abondance chez la capitaine Messine, Chloé Valentini.
Je sais même pas pourquoi je chiale, parce que je réalise pas.
C'est incroyable, le match, tout ce week-end, cette année.
Metz avait échoué 4 fois en demi-finale ces dernières années, alors battre Győr, le double tenant du titre, en finale et en dominant largement la seconde période, la pivot Sarah Bouktit n'osait pas en rêver.
Je me suis fait des milliards de scénarios, j'ai pas dormi de la nuit tellement j'étais excitée et stressée. Il y a pas un moment où je me suis dit on mènera plus 6 contre le géant Győr. Je suis pas surprise au final, c'est juste le fruit de tout le travail qu'on a accompli.
L'histoire est belle aussi pour Graza Hadi, la demi-centre revenue dans le club de ses débuts pour 3 mois après avoir déjà tout gagné avec l'équipe de France.
C'est la médaille qui me manquait, je la gagnais en fait avec mon club de cœur, c'est incroyable.
Le club lorrain avait déjà tout sport confondu, l'un des palmarès les plus fournis de l'Hexagone, désormais sublimé par une Coupe d'Europe.
En première aussi en tennis, hier à Roland-Garros, l'Allemand Alexander Zverev qui a remporté son premier tournoi du Grand Chelem en 5-7 contre l'Italien Flavio Cobolli. Et puis je vous signale que les Bleus de l'équipe de France sont à Lille où ils disputeront ce soir leur deuxième match de préparation au Mondial contre l'Irlande du Nord cette fois. Didier Deschamps va diriger son dernier match sur le sol français. Je suis un bon vivant, one life, comme disent les jeunes. Voilà ce que dit Didier Deschamps dans un entretien journal Le Parisien ce matin.
Ça veut dire on n'a qu'une vie.
Oui, c'est ça.
Ouais. On y croit ou pas au côté bon vivant? Moi, je me rappelle aussi d'une interview où il expliquait qu'il faisait une heure de gainage par jour.
Ouais, moi, j'ai une théorie sur les gens qui disent qu'ils sont des bons vivants, ce ne sont pas des bons vivants.
C'est pas qu'il fait une heure de gainage, c'est qu'il tient une heure en gainage.
Ouais. Voilà.
Quelqu'un, ça peut pas être un bon vivant. Hein,
franchement, il y a un petit problème là, ça va pas avec le magret de canard, tout ça.
Il t'a interrogé justement là-dessus. Est-ce que c'est sympa les moments autour d'un barbecue avec Dédé? Il répond que oui.
Bon, vous réagissez au 32-16 ce matin sur tous les sujets de l'actualité, mais aussi parfois pour nous dire un petit bonjour, simplement. Au 32-16, vous êtes ici chez vous. Écoutez, Fred qui est dans la Drôme. Bonjour, Fred.
Salut, Fred.
Oui, bonjour. Bonjour, l'équipe. Bonjour, tout le monde.
Comment ça va ce matin, Fred?
Oh, très bien. On vous suit vos aventures tous les matins. Donc, tout va bien et tout. Et
vous êtes un fidèle parmi les fidèles.
À 5h du matin, ouais, c'est un peu lourd, là.
Et vous allez aussi suivre la Coupe du Monde qui démarre dans 3 jours, Fred, je crois.
Oui, oui, on va suivre au mieux là, avec l'emploi du temps. On va essayer de faire au mieux pour suivre au maximum les matchs, oui.
Oui. Vous travaillez en horaire décalé un peu, Fred ?
Non, en note de caisse.
Vous êtes levé tôt, dites donc.
Oh, c'est une habitude tous les matins.
Une habitude. Hein, voilà. Il va falloir se coucher tard pour la Coupe du Monde. Hein. Ou alors rattraper avec RMC, avec l'application RMC et les multiples podcasts qu'on va vous proposer. Fred, il y a des paris un peu au boulot ou pas ?
Non, moi.
On va peut-être vous donner envie, là, vous allez l'entendre. Restez bien à l'écoute, Fred. On va vous expliquer comment jouer. Et parfois jouer sans argent, d'ailleurs. C'est quand même aussi l'intérêt, c'est qu'on peut jouer juste pour s'amuser. Merci, Fred, de votre appel.
Eh bien, bonne continuation. Bonne journée à vous.
À bientôt, Fred. Bien. Bonne journée à vous.
Il est 5h11 sur RMC. Dans un instant, c'est le choix de la rédaction avec la Coupe du Monde 2026 qui débute, on vient de le dire, dans 3 jours. Bonjour Célestin Bougère.
Bonjour.
Célestin, il y a un phénomène qui cartonne, ce sont les concours de pronostics.
Eh oui, ça commence déjà à chambrer sur les groupes WhatsApp entre amis, en famille ou entre collègues même.
Eh ben, vous restez à l'écoute et vous nous dites surtout si vous avez déjà lancé votre concours au boulot. Et puis Géraldine Demory, la solution conso, presque liée à la Coupe du Monde.
Eh ben, on va voir les abonnements, comment on fait baisser le coût des abonnements et si on peut toujours partager ses abonnements.
Dès 5 euros.
Jusqu'à 7 heures.
5-7. Le Morning RMC.
Élise Dangean, Mathieu Béliard.
Il est 5h13 sur RMC, RMC Story. Très bon réveil à tous.
RMC, le choix de la rédaction.
Bonjour Célestin Bougère.
Bonjour.
La Coupe du Monde. J-3. Ça y est, c'est parti. Alors, on le sait, les paris sportifs vont cartonner, mais ce matin, on va parler de concours de pronostics gratuits, en famille, entre amis, entre collègues.
Le phénomène explose, les applications sont de plus en plus nombreuses, et d'ailleurs, Célestin, de nombreuses entreprises ont décidé de lancer un concours de pronostics.
Eh oui, je me suis rendu par exemple à Viry-Châtillon, dans l'Essonne, au siège de la branche énergie et services de l'entreprise BTP Fayat. 1000 salariés sont attendus sur l'application Corporico qui permet d'enregistrer son pronostic pour tous les matchs de la Coupe du Monde. Pas d'argent en jeu. Le principe, plus le pari est risqué, plus vous gagnez de points si vous avez raison à la fin du match. Je rejoins deux voisins de bureau, Paul Aubin, responsable achat, et Pauline Kramer, qui s'occupe de la base fournisseur de l'entreprise. Des maillots sont accrochés au mur. Il y a des drapeaux bleu, blanc, rouge un peu partout. On sent que la compétition se rapproche.
On l'a déjà fait il y a 2 ans pour l'Euro. D'ailleurs, j'avais gagné. C'est marrant, c'est bonne ambiance, c'est fun, c'est cool. Franchement, je suis à fond, donc j'ai trop hâte que ça commence. T'as commencé, toi ?
Bien sûr.
Déjà, on peut voir votre pari final pour le vainqueur.
La France, évidemment, on est chauvin. Sur les têtes de série aussi pour les différents groupes.
Et là, est-ce que vous pouvez me montrer, par exemple, ce que vous avez parié pour l'instant ?
Bien sûr.
T'as mis Mexique, ouais. Non, moi, je dirais plus l'Afrique du Sud.
Ouais,
l'Afrique
bien sûr.
Bah, on sait jamais. Hein.
Non, mais
bah,
c'est la belle surprise.
Bah, on verra bien. Hein.
Non, moi, je joue safe, elle est plutôt audacieuse. Voilà, elle prend les 130 points direct sur.
J'avais même pas vu les points. C'est les couleurs qui me parlent.
Voilà, donc là, on joue vraiment sur les fondamentaux, les drapeaux. C'est ça qui oriente le pari.
Merci, t'as mis la France quand même.
Bah, on se régale.
Vous pensez que vous avez une chance de gagner quand même ou ça va être compliqué ?
On sait pas. Hein. Il a de la chance, lui. Hein.
C'est pas que de la chance. Je vais pas vous mentir, monsieur, on joue pour gagner.
Que le meilleur gagne.
À la fin de la compétition, les 10 salariés avec le plus de points remporteront un barbecue électrique, un air fryer ou encore des écouteurs. L'application Corporico va être utilisée par près de 400 entreprises pour la Coupe du Monde. Un record selon David Belaïch, le cofondateur de la société qui édite ce site.
On a autant d'experts en foot que de novices, autant d'hommes que de femmes, autant de jeunes que de personnes plus âgées. On a complètement modernisé soit le papier, soit même le tableau Excel ou le tableau Velleda.
On a plus le collègue qui vient effacer son pronostic de la veille sur le tableau Velleda.
Exactement, ça évite les conflits.
Alstom, Stellantis, Saint-Maclou, les comités d'entreprise de ces sociétés ont invité déjà leurs salariés à faire leurs pronostics.
Mais attention, il n'y a pas seulement dans les entreprises, hein, il n'y a pas que dans les entreprises qu'on parie.
Et non, tout le monde se lance avec des applications comme Scorecast, Mon Petit Prono. Une salle de sport fait gagner 1 an d'abonnement au meilleur parieur. Un réparateur de téléphone, des cartes cadeaux, des restaurants, des bars se prêtent au jeu. Et même un EHPAD à Saint-Martin-des-Champs dans le Finistère. Nathalie Vignard, l'animatrice, récolte des pronostics. Les pronostics des résidents à chaque compétition internationale depuis 2012.
C'est un moment très convivial. Cet engouement, je peux même pas l'exprimer. C'est tellement beau à voir. Ils sont tellement heureux de faire ça. Bon, il y a aucun mystère. Tout le monde a mis la France qui gagne. Donc, c'est des chauvins.
Et à la fin, le vainqueur a le droit à une coupe avec son nom inscrit dessus. Le trophée est remis en jeu tous les 2 ans à chaque compétition.
Et certains se lancent même en famille ou entre amis.
Et oui, et là, c'est plus la même histoire. C'est son honneur qui est en jeu. Je suis allé chez Vincent, un avocat. Son frère Louis est à l'étranger en ce moment. Ils se sont appelés pour débattre de leurs pronostics et les deux ne sont pas d'accord.
Salut frérot.
Salut vite.
Moi je vois la France aller loin mais pas gagner en finale. J'ai été impressionné par l'Espagne et donc moi je les vois gagner.
Vincent, d'accord avec votre frère ou pas forcément?
Moi je vois une finale Brésil-Portugal.
Et c'est qui le meilleur un peu dans la famille?
Clairement moi.
Oui, est-ce que vous confirmez, est-ce que c'est votre frère le meilleur dans cette compétition ou pas du tout?
Il n'y a pas une domination incontestée de Vincent dans la famille, non. Ça je préfère être clair. On est souvent étonné par notre père qui sort des pronos originaux qui sur le moment nous font bien marrer et qui après peuvent se révéler.
Et vous gagnez quoi?
On gagne le droit d'arrêter de se faire chambrer et le droit de chambrer les autres jusqu'à la prochaine compète.
Rendez-vous dès jeudi pour cette famille puisque le père a pronostiqué un beau parcours du Mexique qui joue le match d'ouverture contre l'Afrique du Sud. C'est un peu risqué.
Non mais c'est pas mal. J'attends. Hein. Il y a Arthur Asquin qui est en train de préparer le nôtre pour le Running RMC. Pour
je mets pas l'Afrique du Sud contre le Mexique. Le Mexique à Mexico City.
C'est l'état bougère, vous avez déjà rempli des grilles de Paris, vous?
Oui, déjà avec des amis.
J-3.
D'ailleurs,
on
pourrait
intégrer Célestin.
Vous soyez le bienvenu.
Ah bah oui.
Racontez-nous, entre collègues, entre amis, et puis qu'est-ce qui se joue? L'essentiel, c'est dans le chambrage sur WhatsApp derrière. Et puis je vous rappelle que pour bien remplir vos grilles de pronos, vous restez à l'écoute d'RMC, radio officielle de la Coupe du Monde. 100% des 104 matchs commentés en direct. Ça y est, moi je suis un peu ému. Hein. Ça y est, J-3.
Ouais, t'en fais pas.
Bah ouais, t'as jamais été aussi prêt.
C'est parti.
Il est 5h18.
Premier degré.
Et c'est l'heure des choix de la bande, avec les infos qu'on a dénichées dans la presse. Et qui est-ce qu'on a déniché aussi? C'est Arthur Asquin. Salut Arthur.
Oui, bonjour Élise, bonjour Mathieu, bonjour Géraldine, Célestin, tout le monde.
Bonjour la France, quoi, finalement.
Ouais, on peut dire bonjour à Ali, à bonjour Christian, on a qui aussi? On a Rico.
Bonjour Ali, bonjour voilà. Christian, bonjour Rico.
Et, voilà.
Et Philippe et Nadine aussi?
Oh, pareil, Philippe et Nadine, on leur dit bonjour.
Bon, allez, on s'arrête là. Moi, j'ai une petite astuce pour nos amis automobilistes pour faire annuler une sanction pour téléphone au volant. Alors, je sais, c'est mal, hein, mais au cas où ça vous arriverait. Et si vous avez été pris la main dans le sac, ou plutôt la main à l'oreille, par un radar, c'est comme ça que ça fonctionne. En Belgique, une femme a été acquittée car elle a réussi à faire reconnaître que la photo prise par le radar n'avait aucune valeur juridique. Les faits remontent à décembre dernier dans un petit village près de Dunkerque, mais côté belge, donc à Pervise. Ce sont nos confrères de 7 sur 7 qui racontent cette histoire. L'automobiliste se fait flasher, excès de vitesse de 3 km/h, rien de... excès de vitesse, je vais pas le qualifier. Excès de vitesse de 3 km/h. Et alors, on voit le téléphone à la main sur la photo. Elle reçoit donc une double verbalisation, mais elle a pris un avocat. Elle s'est pas laissée faire. Et alors, il a joué sur le vide juridique qui existe aussi bien en Belgique qu'en France. C'est pour ça que je vous en parle ce matin. En fait, c'est à la discrétion du juge et je pense que cette décision peut créer un précédent. Voilà. Donc, je vous donne l'info, un petit tip.
Comment on peut qualifier un excès de vitesse de 3 km/h?
Un petit.
C'est pour embêter Elise, qui elle appelle ça le frein moteur. Vous l'aurez compris. Bon, un simple carton oublié dans un grenier qui peut parfois cacher un trésor. En Écosse, il y a une femme qui a retrouvé un exemplaire rarissime d'Harry Potter à l'école des sorciers. Le premier tome, livre qui lui avait été envoyé en 97. Elle travaillait comme critique littéraire dans un magazine. Elle a jamais ouvert le livre. Elle l'a conservé sans le savoir, dans un état presque parfait pendant près de 30 ans. Alors, il faut dire que c'était avant la folie Harry Potter. Cet exemplaire était valorisé à l'équivalent de 6 euros à ce moment-là. Résultat, cette première édition est à neuf, qui n'a pas vu la lumière du jour pendant 30 ans, donc qui est en état impeccable. Première édition reconnaissable aussi à plusieurs erreurs d'impression qui sont devenues mythiques chez les collectionneurs. Bref, elle l'a vendue un peu plus de 20 000 euros.
Oh, wow.
Ah ouais.
Fois 3333. Voilà, la mise de départ, qui n'était pas une mise de départ, puisqu'on lui a envoyé gratos.
Bah oui.
Bravo, madame. Voilà. Il est 5h20.
Moi, j'ai une histoire qui va vous filer le cafard ce matin. Il y a en Australie, la police, elle a mis fin à un élevage clandestin de blattes. Et oui, 100 000 insectes rampants ont été découverts près de Sydney, notamment des blattes de Madagascar. Et elles sont très particulières, ces blattes, parce qu'elles font la taille de la paume d'une main. Vous voyez, c'est les cafards de la taille d'une paume.
C'est gros, quand même.
C'est très gros. Et elles sont élevées illégalement, en fait, pour servir de repas aux lézards de compagnie. Et elles valent très cher. 122 000 euros. Ça fait donc 1 euro la blatte. Alors, pourquoi élever des blattes géantes? Parce que plutôt que donner des petites blattes, plusieurs petites blattes aux reptiles, une seule géante suffit. Et les blattes sont aussi appelées battes siffleuses. Elles ont un mécanisme de défense bruyant. Bref, 100 000 blattes saisies. Elles seront malheureusement euthanasiées. Donc, pas de dessert pour les lézards.
Oui, ils les filent pas aux lézards?
Bah, je sais pas.
Bon, bref, le droit
il plaisante pas. Ouais, non, il plaisante pas avec les animaux exotiques.
Ouais, les trucs bizarres qu'il y a là-bas. Merci beaucoup, Arthur. Il est 5h21 sur RMC. RMC Story, les trois grands titres de l'actualité.
Et les suites de l'affaire Liana au lendemain de la marche blanche organisée pour la jeune fille. Les procureurs, plus que jamais sous pression, ils ont désormais jusqu'au 14 juillet pour revoir l'intégralité des 70 000 plaintes en cours pour des faits de violence sexuelle sur enfants. Travail réclamé par le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, qui reçoit d'ailleurs ce matin les
des procureurs généraux alors que des manifestations vont se tenir ce soir devant les tribunaux. Pour son premier meeting, Jean-Luc Mélenchon s'affiche en rival du Rassemblement national et se veut en première ligne de la gauche. Et puis dernier match des Bleus avant de s'envoler pour les États-Unis. Les hommes de Didier Deschamps affrontent l'Irlande du Nord à 21h10 ce soir après leur défaite de 1 contre la Côte d'Ivoire la semaine dernière.
Il est 5h22.
RMC, la solution conso.
Allez, tous les matins, Géraldine a ses astuces pour nous aider à faire des économies. La semaine dernière, Géraldine, la plateforme de partage d'abonnements Split a été condamnée à verser une énorme amende aux géants Netflix, Disney, Apple. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin des partages de comptes?
Alors non, pas du tout. D'ailleurs, si vous allez sur le site de Split, vous pouvez encore tout à fait vous co-abonner à Netflix ou à Disney+. Il faut comprendre qu'il y a en fait plusieurs types d'abonnements. Les moins chers, vous pouvez effectivement les partager uniquement avec les membres d'un même foyer ou d'une même famille. Et c'est clairement indiqué quand vous prenez l'abonnement. Et c'est là-dessus que Split était en infraction, puisque la plateforme permettait de mettre en relation des inconnus sur ce type d'abonnements familiaux. En revanche, vous avez aussi des options abonnés supplémentaires qui peuvent tout à fait être partagées en dehors de la famille. Et là, ça pose aucun problème.
Mais on risque rien en tant que consommateur ?
Non, alors faut bien vérifier les conditions, mais le partage de comptes reste totalement légal. D'ailleurs, la plateforme Split, effectivement, a été condamnée, mais les consommateurs, eux, n'ont absolument pas été inquiétés. Il y a d'autres plateformes de partage d'abonnements qui continuent aussi sans problème, comme ShareSub, par exemple. Et sur ces plateformes, il n'y a pas que des abonnements vidéo, vous avez vraiment tout type d'abonnements. Il y a des partages d'abonnements de musique, d'applis comme Strava ou Duolingo. Vous avez de la presse aussi, et là, généralement, il n'y a pas de restrictions. Vous pouvez partager avec qui vous voulez et ça reste plus rentable que de prendre votre propre compte.
On a vu aussi que les Français dépensaient moins cette année pour leurs abonnements.
Oui, 8 euros de moins que l'an dernier. On était en moyenne à 49 euros par mois. On est passé à 41 euros par mois. Alors, ça reste beaucoup. Pour faire baisser la facture, vérifiez que vos abonnements correspondent bien toujours à vos besoins. Parce que quand il y a des nouvelles conditions générales de vente, on a tendance à cliquer un petit peu vite sur j'accepte sans trop regarder. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des abonnements qui sont de plus en plus chers et de plus en plus restrictifs. N'hésitez pas à passer sur des abonnements avec pub, c'est quand même les moins chers et puis la pub généralement est pas trop invasive. Et puis la règle d'or, c'est la gestion active. Vous avez besoin d'une appli spécifique, vous la prenez pour un mois, vous la résiliez tout de suite. Quand vous en aurez à nouveau besoin, vous la reprendrez à ce moment-là. C'est notamment très efficace sur les plateformes vidéo puisque elles gardent en ligne les mêmes films et les mêmes séries pendant plusieurs mois. Donc vous ne raterez rien en passant de l'une à l'autre plateforme et vous ferez des économies.
Merci Géraldine, c'était la solution conso.
Vous êtes version avec pub ou sans pub? Moi j'ai basculé.
Ah moi je suis avec pub.
Ah, je peux pas regarder quelque chose avec de la pub.
Moi ça me dérange pas. Franchement je trouve qu'ils sont allés soft.
Pour l'instant il y a peu de.
Après je crains que ça monte crescendo.
On verra. Il y a débat. 5h24.
La conso sur RMC avec Banque Populaire. Engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Allez, dans un instant, c'est le meilleur d'Arnaud Demanche et vous au 32-16. À tout de suite.
5h-7h.
5-7. Le Morning RMC.
Élise Dangean, Mathieu Béliard.
Il est 5h26 sur RMC et RMC Story.
Allez, un peu de Taylor Swift ce matin pour vous annoncer, Mathieu, qu'elle rejoint Bad Bunny au casting de Toy Story 5. Ouais, vous en avez parlé. On aura Bad Bunny et Taylor Swift, en tout cas au casting musical. Et alors, pour l'occasion, la superstar américaine a renoué avec ses racines musicales.
Country.
C'est le retour de l'harmonica, du banjo, de la mandoline pour une bonne chanson country comme on les aime. C'est avec ça que Taylor Swift a démarré sa carrière il y a 20 ans. Écrire cette chanson m'a donné l'impression de prendre un nouveau départ musical tout en retrouvant mes racines. Voilà ce qu'elle a écrit sur Instagram avec une vidéo d'elle enfant déguisée en cowgirl. Et justement, ce morceau, elle l'a écrit pour Jessie, la cowgirl de Toy Story, apparu dans le deuxième volet. Taylor Swift qui confie d'ailleurs qu'elle est fan de la saga d'animation Pixar depuis qu'elle a 5 ans, vers l'infini et l'au-delà, conclusion de référence à Buzz l'éclair. Le film sortira en salle le 17 juin.
Et on aura l'occasion d'en reparler, c'est l'événement au ciné pour cette mi-juin. On attend Toy Story 5, Géraldine Demory avec impatience, je crois.
Bah oui, j'ai très envie de le voir.
5h27 sur RMC. Le mot caché a été prononcé, on va le redire.
Oui.
Mais à tout moment,
Un mot sort de l'ordinaire, vous envoyez mot par SMS au 732-16.
Et si vous serez peut-être tiré au sort pour gagner votre Winbot Mini 2 d'Ecovax.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
Jouez au mot caché sur RMC avec Ecovax et sa gamme de robots lave-vitres Winbot à spray automatisé qui nettoie vos vitres impeccablement en toute sécurité.
Allez, il revient tout à l'heure en direct dans Apolline Matin, mais on se met tout de suite dans l'ambiance. C'est le meilleur d'Arnaud Demange.
Cette semaine, c'était aussi le début des finales de la NBA, le basketball américain. Les Spurs de San Antonio ont perdu contre les New York Knicks, qui ont éliminé successivement les Big Tits de Cincinnati, les Cougar Lovers de Detroit, les Butthole Lickers de Minneapolis et l'équipe fétiche de Mathieu Béliard, les Horny Grannies de Buffalo, qui ont fait une bonne saison hein, contre les Tremendous Cocks de Dallas. Le basket, moi j'ai jamais accroché, il faut mesurer 2m24 pour avoir le droit de jouer.
Par contre l'anglais...
L'anglais j'aime bien. C'est chaud 2m24 pour jouer, est-ce que ce serait pas plus simple d'interdire aux gens de plus de 2 mètres de participer, de mettre les paniers plus bas.
Mais oui, mais moi,
ce serait plus accessible quand même.
Complètement
il
n'y
a pas
d'accord.
De sport réservé aux nains, par exemple. Pas si, il y a Fort Boyard, mais bon, enfin, un peu tout, bref, tout le monde ne peut pas participer.
Arnaud, qu'on retrouve tout à l'heure en direct à 7h20 et à 8h20 dans Apolline Matin sur RMC et RMC Story. Mais tout de suite, c'est l'heure de la météo avec Géraldine. Bon, la semaine commence mal, mais elle va mieux se terminer qu'elle n'a commencé.
Exactement, c'est bien résumé, effectivement. Bon, bah aujourd'hui, c'est la journée la plus perturbée de la semaine. Il faut attendre qu'elle passe. On a la pluie qui arrive par la Bretagne, qu'on retrouvera entre les Pays de la Loire, le centre, l'île de France, les côtes de la Manche cet après-midi. On va avoir des orages entre les Pyrénées, le Massif Central et le Grand Est. Et puis des orages qui seront parfois très forts, notamment autour du Massif Central, avec de grosses rafales de vent, avec des risques de grêle également. Et il n'y a vraiment que vers la Méditerranée, aller jusqu'aux Alpes où on aura un temps bien ensoleillé. Les températures, elles vont être très contrastées entre l'Est et l'Ouest. Cet après-midi, il fera 16 degrés seulement à Brest, mais 31 à Grenoble, 30 à Lyon, on va avoir 28 à Marseille, 25 à Toulouse, 22 à Paris, à Bordeaux, 20 à Lille, Nantes et La Rochelle. Pour demain, donc, ce sera plus calme et ce sera aussi plus frais. Mercredi, on aura pas mal de nuages, quelques averses localisées. Et puis ce qu'on va attendre, c'est effectivement le week-end qui s'annonce beau et très chaud. Dimanche, on aura 27 degrés de moyenne au nord, 30 au sud.
La météo sur RMC avec la nouvelle caméra extérieure Omiris. Omiris, alarme et télésurveillance, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS, agréé CNAPS.
Il est 5h30 sur RMC.
5-7, le Morning RMC.
Et c'est l'heure du journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Mathieu, bonjour Alice, bonjour à tous.
Les procureurs généraux du pays ont rendez-vous ce matin.
Réunis à la première heure dans le bureau de Gérald Darmanin, réunion de travail 4 jours après la mort de Liana, la découverte de son corps. Le ministre de la Justice leur donne jusqu'au 14 juillet pour revoir l'intégralité des dossiers pour violence sur enfants. L'escalade au Moyen-Orient, des explosions entendues cette nuit en Iran, des cibles militaires ont été visées, dit Israël, qui réplique à 11 tirs de missiles iraniens tirés la veille sur le nord de l'État hébreu. Et un dernier test pour les Bleus avant le Mondial ce soir face à l'Irlande du Nord, 21h10 sur RMC.
Émotion et colère hier à Florence.
6000 personnes rassemblées dans cette petite ville du Gers pour une marche blanche en hommage à Liana, jeune collégienne de 11 ans dont le corps a été retrouvé jeudi dernier dans un silo agricole. Dernier acte d'une tragédie qui se joue depuis trop longtemps, dit le maire de la commune, celle de nier la parole des enfants alors que le principal suspect dans cette affaire fait l'objet de 9 procédures pour des faits de viol ou agression sexuelle sur de jeunes filles mineures. Un dysfonctionnement de la justice pointé du doigt. Le sujet sera sur la table, je vous le disais, d'une réunion 8h30 ce matin au ministère de la Justice en présence des 36 procureurs généraux du pays convoqués, Romain Cluzel, par le garde des Sceaux.
Gérald Darmanin veut taper du poing sur la table parce qu'il estime que ses consignes n'ont pas été suivies concernant les plaintes de violences sexuelles sur mineurs. Alors le ministre de la Justice demande de revérifier un par un les 70 000 dossiers existants aujourd'hui en France et il prévient.
Je ne partirai pas en vacances et il n'y a pas un haut magistrat qui va partir en vacances tant que je n'aurai pas vu un par un les procureurs généraux pour qu'on fasse le bilan de sa cour d'appel, qu'on voit ce qui manque. S'il y a des difficultés ici ou là, peut-être des problèmes avec le ministère de l'Intérieur, peut-être des problèmes d'experts parce qu'il manque des psys ou des médecins légistes. Il peut y avoir ce genre de problème.
Le garde des Sceaux balaye les appels à sa démission venus notamment des socialistes et des insoumis et tente de renvoyer la pression sur les magistrats. Des sanctions pourront être prises après la publication de l'enquête administrative en cours. Et Gérald Darmanin le précise, cela peut aller jusqu'à la révocation.
Et dans ce contexte, associations et collectifs appellent à des rassemblements ce soir à 19h devant les tribunaux d'une centaine de villes afin de dénoncer, je cite, l'injustice de trop.
La cinéaste et militante Andrea Bescon sera notre invitée tout à l'heure à 6h40 sur cette question. Elle fait partie de ces associatifs qui seront rassemblés, qui seront devant les tribunaux, notamment devant le ministère de la Justice. Elle fait partie de ceux qui ont lancé l'appel. Est-ce qu'il faut se mobiliser? Vous allez nous le dire. Et puis surtout pour demander quoi? Vous attendez quoi aujourd'hui comme réponse des autorités? La revue de tous les dossiers en cours de traitement, comme dit Gérald Darmanin, est suffisant? On vous attend au 32-16 ce matin.
Un mort et deux blessés en urgence absolue, bilan d'un crash d'hélicoptère de la gendarmerie. Ça s'est passé hier dans le Loiret. Toutes les victimes sont des militaires.
5h33 sur RMC, la menace d'une reprise de la guerre au Moyen-Orient ce matin.
Deux mois après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu toujours très fragile, Téhéran et Tel Aviv ont échangé des tirs de missiles. Israël a répliqué cette nuit à des tirs iraniens, tirés la veille sur le nord de l'État hébreu, tous interceptés en guise d'avertissement après des frappes menées dans le sud de Beyrouth au Liban, un conflit qui dure depuis 100 jours. Et des conséquences sur les prix à la pompe. C'est d'ailleurs aujourd'hui que le guichet d'aide au carburant ouvre pour les artisans du BTP. 20 centimes par litre de gazole non routier facturé en mai, plafonné à 4000 euros pour les entreprises de moins de 50 salariés. Mais cela ne suffira pas à sauver un secteur à bout de souffle. Écoutez, Jean-Christophe Repond, il est le président de la CAPEB.
Les aides sont bien évidemment insuffisantes pour pallier les augmentations que l'on a vécues dans le GNR, mais pour nous, il était important que le secteur du bâtiment et des travaux publics soit aussi concerné comme les agriculteurs et les pêcheurs. On a eu Covid, Ukraine, énergie et maintenant Hormoz, qui fait que depuis plus de 4 ans, les artisans ne voient pas la sortie du tunnel. Il y a vraiment une lassitude de nos artisans. Les stratégies sont vraiment des stratégies de survie. On a des artisans qui réduisent la volonté de travailler ou qui réduisent leurs effectifs. Ils sont au bout du rouleau.
Au bout du rouleau, les entreprises du bâtiment et des travaux publics, vous vous reconnaissez dans ce témoignage, vous réagissez au 32-16, la CAPEB, les représentants du secteur qui parlent de 10 000 emplois menacés dans le bâtiment en lien direct avec la crise au Moyen-Orient, c'est le cas chez vous, vous réagissez au 32-16.
Il est 5h34 et on en vient à présent à la démonstration de force des Insoumis hier à Saint-Denis.
Premier meeting pour Jean-Luc Mélenchon à moins d'un an de la présidentielle devant 26 000 personnes. Le leader de la France Insoumise s'est posé comme le seul candidat de la gauche capable de l'emporter face à l'extrême droite, un moyen de mettre ses adversaires à gauche sous pression, Cyprien Pézeril.
Des drapeaux tricolores plus nombreux que d'ordinaire et un slogan jusqu'alors jamais entendu à gauche. On est chez nous, la formule venue de l'extrême droite et détournée par les Insoumis et Jean-Luc Mélenchon.
Mesdames, messieurs les fachos, on est chez nous.
Manière de s'ériger en seul rempart face au Rassemblement National, en balayant du même coup les autres partis de gauche.
La première force politique de la gauche, la voici. La primaire est finie. C'est nous qui avons gagné l'honneur de marcher en première ligne.
Dans la foule, les militants galvanisés, ici Nicolas et Anna.
La dynamique est du côté de la France insoumise. Il n'y a pas de division inutile, pas de querelle de personne.
Plus on avance, plus on voit bien que la seule gauche qui reste, c'est la France insoumise et que le PS et même les écolos maintenant,
Ces derniers temps, notamment face aux polémiques, Noé, lui, hésitait à soutenir à nouveau Jean-Luc Mélenchon.
Moi, j'ai douté beaucoup. J'ai l'impression qu'on est beaucoup à se raviser. Je suis passé, je pense vraiment, de plus jamais. On a une chance.
Un début de campagne scruté par le reste de la gauche, un chef du PS s'interroge. Mélenchon est parti haut et fort, mais aura-t-il les moyens de tenir dans la durée?
Un peu de politique hein, ce matin avec ce premier meeting de Jean-Luc Mélenchon des Insoumis. Jean-Luc Mélenchon qui essaye de s'installer comme le rempart, le seul rempart à gauche possible contre l'extrême droite, c'est le cas. Est-ce que c'est le meilleur candidat à gauche? On vous pose la question au 32-16 ce matin.
À retenir également ce matin l'arrestation d'un homme aux États-Unis suspecté d'avoir poignardé 6 personnes dans une gare à New York. Quelques jours seulement du mondial, justement, aux États-Unis.
Il est 5h36 et une dernière étape pour les Bleus avant la Coupe du Monde.
Ce soir à Lille, 21h10, l'équipe de France affronte l'Irlande du Nord. Match amical pour ajuster les derniers détails à une semaine tout juste du premier match des hommes de Didier Deschamps à la Coupe du Monde, Arthur Perrault.
Oui, ce soir à Lille, les Bleus répètent déjà leur match contre le Sénégal, indéboulonnable. Dans les cages, Mike Maignan devrait honorer sa 40e sélection en défense. William Saliba s'est débarrassé d'une blessure au dos. Le joueur d'Arsenal en Angleterre pourrait débuter avec Jules Koundé, Dayo Upamecano et Théo Hernandez. En difficulté jeudi dernier lors de la défaite 2-1 contre la Côte d'Ivoire, le binôme Adrien Rabiot-Aurélien Tchouaméni pourrait être reconduit au milieu de terrain. Mais la meilleure nouvelle pour Didier Deschamps, le retour à 100% des joueurs parisiens, fraîchement sacré double champion d'Europe. Le sélectionneur l'a annoncé hier, le ballon d'or Ousmane Dembélé sera titulaire à Lille. Il devrait être accompagné de Michael Olise, Désiré Doué et Kylian Mbappé pour une attaque de feu à 8 jours du premier match des Bleus aux États-Unis.
France, Irlande du Nord, 21h10 ce soir sur RMC. À noter que la Norvège, dans le groupe des Bleus, fait match nul face au Maroc hier soir, un but partout. Un mot de Roland Garros, premier grand chelem pour Alexander Zverev, vainqueur en 5-7 de l'Italien Flavio Coboli après plus de 4 heures de jeu. Et puis, elles sont les premières reines d'Europe française en handball. Metz a décroché la Ligue des champions féminines, vainqueur des Hongroises de Győr, 31-29. C'était à Budapest hier soir, ça vous rappelle quelque chose?
Et les Budapest, ouais. Oui. J'ai.
Voilà, vous l'avez.
Pensez à quoi?
Oh, je sais pas, la victoire du PSG en Ligue des Champions aussi.
J'ai oublié, moi.
Les courses, c'est arrangé.
Moi aussi. 18h30, le 2 Zulu Warrior est le favori de la Dream Team RMC. L'outsider, c'est le 9 King Trezy, le 2 et le 9.
Merci Thibaut, c'était le journal de 5h30. On va tout de suite accueillir Philippe au 32-16. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Philippe, vous vouliez réagir sur l'affaire Liana, les suites de cette affaire. Après la marche blanche organisée hier, on a le garde des Sceaux qui réclame à ce que les plaintes pour violences sur enfants soient toutes réexaminées. Il y en a 70 000. Et vous dites, vous, le problème, c'est l'administration dans son ensemble, quoi. C'est ça le souci.
Je trouve qu'il y a un dysfonctionnement, mais j'ai compris un peu la déclaration du procureur tout à l'heure qui était en voix off. Parce que de toute façon, on est tellement envahi de fonctionnaires dans les bureaux qui envoient des directives sur les fonctionnaires de terrain qu'au bout d'un moment, vous savez même plus comment faut faire.
Alors les directives dont il parlait, c'était des circulaires qui viennent du ministère.
Oui, mais j'aimerais bien qu'un jour, un journaliste, vous ou une autre radio ou une autre télé, fasse une enquête sur toutes les strates qu'il y a dans l'administration, de voir ce qu'il y a entre les mairies, les Comcom, les agglos, les conseils départementaux, les régions, l'État, les machins, et tous les gens de terrain, puisqu'ils doivent subir en déclaration, télédéclaration, pour que ces gens-là...
Ce que dit ce magistrat, Philippe, c'est que quand tout est prioritaire, plus rien ne l'est, finalement.
Mais c'est exactement ça. Vous êtes envahis de paperasserie. On nous dit que la révolution informatique devait nous faire faire moins de papier. On en fera encore plus. Donc, oui, il manque des fonctionnaires terrain. Je suis sûr qu'il manque des procureurs, qu'il manque des greffiers, qu'il manque des choses comme ça. Mais on peut en supprimer la moitié dans tous les bureaux.
Pour vous, il y a une lourdeur administrative que vous retrouvez à plusieurs échelons du service public, avec, mais, en l'occurrence, dans ce cas-là, disons-le quand même, une issue dramatique.
Tout à fait, mais depuis des années, je me dis, un jour ou l'autre, ça va réduire. Eh mais non, ça empire, et ça empire. Et vous ouvrez une porte, et il y en a encore des nouveaux.
Philippe, merci mille fois. Merci beaucoup d'être intervenu au 32-16 ce matin. Je rappelle que Philippe est fonctionnaire territorial dans ce service public. Sans doute sait-il au moins en partie de quoi il parle. Frédéric est avec Frédéric Chevalier, sera l'invité d'Apolline de Malherbe à 7h40 tout à l'heure. Le procureur de la République de Chartres, président de la Conférence nationale des procureurs de la République, justement, alors que les yeux se tournent vers la chancellerie, vers le garde des Sceaux et vers les différents palais de justice avec ces manifestations organisées ce soir. Merci Philippe.
Il est 5h40 sur RMC et dans un instant, J-3 avant la Coupe du Monde 2026. Mais le Mondial de Virginie, lui, il a déjà commencé sur RMC. Salut Virginie.
Salut à tous et PNC aux portes, hein, on embarque là.
On y va alors.
Et puis alors Carmen, ou encore la flûte enchantée, jouée en plein air, sans fauteuil rouge ni dorure. Dans certains quartiers de Clermont-Ferrand, ça s'appelle Opéra Déconfiné. Ève Coquard, la directrice du Clermont Auvergne Opéra, nous en parle dans un tout petit instant sur RMC.
5-7, le Morning RMC.
Élise Dangean, Mathieu Béliard.
Il est 5h42 sur RMC et RMC Story.
RMC,
le Mondial de Virginie.
Et le Mondial, ça commence dans 3 jours aux États-Unis, au Mexique et au Canada.
Vous
allez voir le 19 juillet, ça va être un festival.
La fête de la musique, non, ça c'est le 21 juin. Bon, ça y est, les premières équipes sont arrivées ou alors elles sont en partance pour le grand voyage.
Voilà, c'est aussi un voyage dans le temps, hein. On fait, mais surtout un voyage vers la Coupe du Monde. Alors pour l'équipe de France, il reste quand même un match de préparation ce soir contre l'Irlande du Nord à Lille. Et après, on boucle les valises et on part pour la côte Est des États-Unis. C'est le dernier voyage de Didier Deschamps en tant que sélectionneur. Hier, il a dit au revoir à Clairefontaine et le personnel du château lui a fait une haie d'honneur. Il est ému, Didier Deschamps, parce qu'il faut dire qu'il quitte une dernière fois un endroit où il a quand même passé 25 ans de sa vie. Hein. Ouais. 11 en tant que joueur, 14 en tant que sélectionneur. Mais bon, vous le connaissez, il a vite fait taire l'émotion. Il a quand même une Coupe du Monde à préparer.
Une grosse inquiétude, Virginie, du côté du Danemark.
Oui, l'international danois Christian Eriksen s'est effondré sur la pelouse en plein match de préparation hier entre le Danemark et l'Ukraine. Le joueur de 34 ans avait déjà été victime d'un malaise cardiaque très impressionnant lors de l'Euro 2021. Depuis, il porte un défibrillateur implantable. La fédération danoise se veut rassurante. Christian Eriksen s'est vite relevé. Il était conscient au moment où il est monté dans l'ambulance, mais évidemment, il n'est plus question de Coupe du Monde pour lui. Et sa carrière va s'arrêter parce que là, on ne parle plus d'un match, mais d'une vie quand même.
L'équipe d'Iran est arrivée au Mexique où se trouve son camp de base et sa Coupe du Monde promet d'être très compliquée.
Bah, comment pourrait-il en être autrement pour une équipe qui va jouer ses trois matchs sur le sol des États-Unis alors que la guerre au Moyen-Orient se poursuit ? Aucun problème pour l'arrivée de la délégation iranienne au Mexique. Les États-Unis ont fourni des visas à l'ensemble des joueurs, mais ils en refusent une quinzaine pour des membres du staff. L'Iran parle de discrimination. Ça va être coton pour chaque match des Iraniens aux États-Unis. Le premier contre la Nouvelle-Zélande le 16 juin. Les Américains devraient bien autoriser les Iraniens à entrer sur leur territoire à la veille de chaque match, parce qu'il y a des rumeurs quand même qui disaient qu'ils n'auraient que 24 heures pour chaque match, c'est-à-dire on part le matin, on fait
arrivée
le match, on part...
Ah, oui.
Voilà. Bon, normalement, ça ne devrait pas être ça. Je dis bien normalement, la FIFA continue à négocier.
On surveillera. Une fusillade a éclaté près du futur camp de base de l'équipe d'Angleterre.
Oui, à Kansas City, dans le Missouri, 9 personnes blessées. Alors, les Anglais ne sont pas encore arrivés à leur camp de base. Ils étaient en Floride au moment de la fusillade. Ils ont battu la Nouvelle-Zélande 1-0. Mais forcément, cette question de la sécurité de cette Coupe du Monde revient sur le devant de la scène encore un peu plus après cette fusillade.
Bon, heureusement, Virginie, il y a quand même des infos plus légères autour de cette Coupe du Monde, comme les Norvégiens qui arrivent en bateau.
Bon, alors, en vrai, ils prennent l'avion comme les autres. Hein. Mais sur la photo officielle de l'équipe norvégienne, oui, les joueurs posent tous en tenue de viking, Erling Haaland au premier plan, avec un drakkar traditionnel en arrière-plan.
Wow, dans un fjord absolument sublime.
Bah oui, voilà. Bon, on rappelle, la Norvège, dans le groupe de la France, hein, on a encore le temps, ce sera le 26 juin, près de Boston. Franchement, j'espère qu'il y aura la même ambiance qu'au Mexique. Samedi, il y a des milliers de Mexicains qui se sont réunis à Mexico pour faire onduler la plus grande ola jamais vue. Plus de 2 km de long, c'est bon. Le record du monde est battu. C'est plus facile dans la rue que dans un stade pour faire
vous voyez,
deux
moi,
kilomètres.
J'avais pas trop peur de la Norvège dans la poule de la France. Et désormais,
on fait moins les malins.
Il y a le maire de New York, lui, il voit pas la France gagner la Coupe du Monde.
Alors, vous savez que Zoran Mamdani est un grand amateur de football, ce qui est plutôt rare dans la sphère politique américaine. Et il voit quand même la France en finale, mais pas victorieuse. Non, lui, il imagine le Maroc battre les Bleus et remporter la première Coupe du Monde de son histoire. Bon. Alors, on va quand même rappeler qu'il est fan d'Arsenal, qu'il avait misé sur la victoire des Anglais en finale de la Ligue des Champions. On peut donc dire que ses pronostics ne sont pas forcément les bons. Mais c'est parce qu'on est un petit peu vexé aussi, c'est vrai, on peut le dire. Je vous rappelle quand même, parce qu'on parle de toutes ces nations, il y en a 48 en tout qui participent à la Coupe du Monde. On ne les connaît pas forcément sur le bout des doigts. Et donc, vous avez un outil impeccable pour ça. C'est le podcast de l'Afterfoot d'RMC qui vous a préparé 48 podcasts pour tout savoir sur les participants. Je vous le conseille, vraiment, c'est génial.
Rendez-vous compte, dans 3 jours seulement, un quart des pays de la planète va se retrouver pour jouer au plus beau sport qui soit le football, évidemment. 48 équipes à découvrir grâce au podcast d'RMC. Le foot, le plus beau sport. Ouais, il y a débat ou pas ?
Il y a forcément débat.
Je vais mettre Salonard, mais je ne rentre pas dans ce débat.
Tout de suite sur RMC, RMC Story, je vous rappelle qu'on joue.
Bah oui.
Il y a un mot qui sort un peu de l'ordinaire, qui a été prononcé.
Oui. Assez récemment.
Si vous l'avez identifié, vous envoyez mot au 732-16. Qu'est-ce qu'on gagne, Elie ?
Eh ben, on gagne le Winbot Mini 2 d'Ecovax. C'est le robot laveur de vitres et de fenêtres automatique et intelligent qui nettoie toutes vos surfaces vitrées en sécurité dans votre maison. C'est génial. Il est 5h47.
Un spectacle musical sur France 98. Le 12 juillet 98, la France battait le Brésil 3-0 et devenait championne du monde pour la première fois. 30 ans plus tard, cette soirée historique va devenir une comédie musicale. Ouais. Alors, pas que cette soirée, l'été 98. 1998, notre plus belle histoire, c'est un spectacle qui racontera les Bleus, mais aussi la France de l'époque. On ne suit pas que Zidane, Deschamps, Thuram, mais aussi les émotions vécues par les Français. C'est le producteur qui est déjà à l'origine de la comédie musicale La Haine qui a fait cette annonce cette semaine de début de Coupe du Monde. La bande-son devrait faire revivre les tubes, les succès de l'époque. Le producteur évoque NTM, IAM. Sur scène, une vingtaine d'artistes sont envisagés, chanteurs, comédiens, danseurs. Une mise en scène qui mêle musique, vidéo, théâtre. C'était aussi l'avènement de la French Touch.
Le calendrier est déjà fixé, écriture du spectacle 2026, première chanson dévoilée en 2027, lancement 2028 avec une tournée, oui, pile pour les 30 ans du Sacre des Bleus. Se mettre dans l'ambiance à 3 jours. J'ai déjà dit qu'on était à 3 jours
du
début de la Coupe du Monde. J-3. 5h48 sur RMC. RMC Story, les grands titres de l'actualité.
Et les procureurs, plus que jamais sous pression dans l'affaire Liana, ils ont désormais jusqu'au 14 juillet pour revoir l'intégralité des 70 000 plaintes en cours pour violence sur enfants. Travail titanesque réclamé par le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, qui reçoit d'ailleurs ce matin les procureurs généraux alors que des manifestations doivent se tenir ce soir devant les tribunaux. Donald Trump appelle au calme après les tirs de missiles iraniens sur Israël pour la première fois depuis le cessez-le-feu Israël, où les écoles resteront fermées aujourd'hui. Et puis, dernier match des Bleus avant de s'envoler pour les États-Unis. Les hommes de Didier Deschamps affrontent l'Irlande du Nord à 21h10 ce soir après leur défaite 2-1 contre la Côte d'Ivoire la semaine dernière.
Il est 5h49.
RMC, à votre service.
L'opéra dans la rue. Entre deux immeubles, dans des quartiers où on ne l'attend pas, exit les dorures, les fauteuils rouges, c'est le pari du Clermont-Auvergne Opéra avec Opéra Déconfiné.
Bonjour Eve Coquart.
Bonjour.
Vous êtes la directrice de cette institution. Opéra Déconfiné, c'est quoi exactement? Comment ça fonctionne?
Alors Opéra Déconfiné, ce sont des rendez-vous hebdomadaires qui ont lieu tous les mois, pendant deux mois, toutes les semaines, pardon, pendant deux mois, en extérieur, au pied des immeubles, effectivement.
Qui sont les artistes qui participent?
Alors, ce sont des artistes professionnels qui viennent essentiellement de la région Rhône-Alpes, quasiment tous d'ailleurs, qui ont été auditionnés pour ce projet et qui sont tous convaincus que c'est absolument essentiel aujourd'hui de chanter effectivement à l'extérieur des salles pour eux et puis pour les spectateurs, pour tout le monde.
Et alors, quel répertoire est-ce que vous avez choisi? Quelles œuvres est-ce que vous avez un peu changé par rapport à votre programmation habituelle? Ou est-ce qu'au contraire, vraiment, vous exportez l'opéra classique en dehors des murs?
Alors, on exporte l'opéra classique, c'est vraiment le principe, mais on reste sur un répertoire qui est quand même un peu sympa. On évite les chanteuses qui meurent à la fin, parce que c'est quand même assez courant dans le milieu de l'opéra. Donc là, on essaye d'être sur un répertoire qui est facile, qui est léger, et qu'éventuellement, les gens reconnaissent, parce qu'on a tous entendu de l'opéra à un moment donné dans nos vies, même sans le savoir.
Et alors, comment se déroule une séance type, si j'ose utiliser le mot séance? Et puis surtout, comment est-ce que c'est reçu? Racontez-nous un peu.
Ah ben, une séance type, c'est une vingtaine de minutes, 20-25 minutes. On a un artiste, Frédéric Felu, qui est un peu notre homme orchestre qui arrive, qui appelle les gens, qui leur demande de venir. Et puis, les chanteurs ont 4-5 morceaux qu'ils partagent avec le public et qui leur sont expliqués de façon systématique. Et les gens suivent ensuite le petit convoi dans les quartiers avec le drapeau, tout ce qui va avec. L'idée, c'est vraiment d'être proche des gens et que les gens puissent nous retrouver facilement.
Et l'idée, c'est aussi de déconstruire un peu l'image de cet art, un art qui serait réservé aux salonards, à une élite uniquement.
Oui, 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 complètement. À Clermont-Auvergne Opéra, c'est vrai que dans notre programmation, on travaille à ça tout au long de l'année. On fait des partenariats, on croise les publics, on rentre, on sort. Et ça fonctionne plutôt bien puisque le noyau des spectateurs grossit de semaine en semaine. Et l'objectif, c'est aussi de continuer ce projet dans le temps, avec la création d'un chœur, pour que les gens participent vraiment à notre saison.
Oui, il y a un projet de chorale de quartier que vous lancez aussi à la rentrée.
Ouais, c'est ça. À partir de septembre, on va inscrire la chorale de Clermont-Auvergne Opéra dans le quartier pour inviter à continuer les gens à se retrouver autour de ces rendez-vous.
Merci beaucoup, Eve Coquart, directrice du Clermont-Auvergne Opéra, de nous avoir présenté cette opération opéra déconfinée pour que tout le monde puisse y accéder. Il est 5h52 et ce sera jusqu'au 28 juin. On va accueillir Jean-Pierre en 32.
Oui, en direct de Chine ce matin. Salut Jean-Pierre.
Salut Jean-Pierre.
Salut à toute l'équipe, comment allez-vous?
Amateur d'opéra ou pas, Jean-Pierre?
Pas amateur, mais j'ai eu l'occasion d'en voir quelques-uns.
Bon, amateur de football, j'ai
eu l'occasion d'en voir quelques-uns, ce qui n'est pas donné à tout le monde déjà. Jean-Pierre, c'est sur les pronostics de foot. Vous allez écouter notre enquête, évidemment, à 6h10 dans quelques instants. Jean-Pierre, est-ce qu'on s'est organisé au boulot, en famille, entre amis, pour faire des pronostics en prévision de la Coupe du Monde?
Bon, on va déjà sélectionner les matchs du Portugal et de la France en tant que franco-portugais. Et après, on avisera avec les amis selon les horaires, parce qu'il y a le décalage horaire en Chine. Ça peut être si bien le matin, tôt le matin ou dans la nuit. On ne sait pas trop encore.
Ouais.
On
va regarder. Il est quelle heure chez vous, là, Jean-Pierre ?
On s'organise. 11h, 6h de plus qu'en France pour maintenant. Donc 11h et quelques, pas loin de 11h.
Ouais, bientôt midi.
Midi, voilà. Bon, voilà.
Ah ouais, c'est la Coupe du Monde du décalage horaire hein, pour nous Français aussi, hein, Jean-Pierre, avec le continent le américain. Il va falloir s'adapter.
Tout à fait, il va falloir s'adapter. Et puis, on espère une victoire française ou cette année, j'aimerais bien que le Portugal la remporte parce que ce serait tellement beau pour Ronaldo et j'ai l'impression que le Portugal est en mission de la gagner pour lui.
Eh ben, le prono de Jean-Pierre, c'est la France ou le Portugal.
De finir là-dessus, franchement.
Je suis pas loin de partager ce pronostic, Jean-Pierre. Merci au 32-16, Jean-Pierre, en direct depuis la Chine ce matin. C'est la Coupe du Monde ou c'est pas la Coupe du Monde?
Ah bah c'est la Coupe du Monde, là, on y est. Hein.
C'est dans combien de temps?
C'est dans 3 jours.
Je crois que je l'ai dit déjà.
Et 5h54. Et tout de suite, c'est le meilleur de l'historien d'Apolline Matin, Arthur Chevalier.
5-7. Le Morning RMC.
Et à tout moment, en podcast, sur rmc.fr, l'appli RMC et toutes les plateformes.
Attention, on va remonter le temps 90 ans en arrière. Comme chaque matin, l'histoire éclaire notre actualité. Et ce matin, c'est avec vous, Paola Purari. Bonjour, Paola.
Bonjour, Apolline.
On nous parlait et on vous parlait hier sur RMC de cette proposition de loi qui permettrait d'échanger la cinquième semaine de congés payés contre de l'argent. Les congés payés, ils fêtent leur 90e anniversaire ce mois-ci.
Et ce matin, Apolline, je vous emmène en juin 1936. La France est en ébullition. Le Front populaire vient de remporter les élections et dès le lendemain, il va se passer quelque chose d'inédit. Les ouvriers ne veulent plus rentrer dans l'usine. Ils les occupent sous les yeux médusés des patrons. Ils en ont marre des cadences chronométrées du sifflet du contremaître. À l'époque, rendez-vous compte, ils travaillent quand même 6 jours sur 7 sans aucune vacance. Alors ils seront bientôt 2 millions dans la rue.
Les patrons vont finir par céder ?
Oui, ils abdiquent. Hein, le 7 juin, il y a 90 ans exactement ce dimanche, les accords de Matignon sont signés. 2 semaines de congés payés pour tous les salariés, des vacances pour tous pour la première fois de l'histoire de France. Alors forcément, dans le pays, comme dirait Charles Trenet, il y a de la joie.
Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie.
Et concrètement, alors ils partent où ?
Alors je vais vous décevoir, Apolline, pas très très loin, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ils enfourchent un vélo, plantent une tente sur un carré de terre battue. Le camping d'avant-guerre, ça se vit à la dure, près d'une rivière sauvage, mais c'est la liberté. Léo Lagrange, ministre des Loisirs. Oui, à l'époque, il y a un ministre des Loisirs qui crée plus tard un billet de train à 60% de réduction. 500 000 billets vont être vendus. Les Parisiens vont débarquer sur les côtes, découvrir la Normandie, la Bretagne, pour prendre une bouffée d'air marin. Certains n'ont jamais vu la mer.
On imagine la tête effectivement de la bourgeoisie qui régnait seule sur ces plages de Normandie jusqu'alors.
Une tête épouvantable, elle voit débarquer ce qu'une presse conservatrice surnomme avec tout le mépris du monde, les prolos, les salopards en casquette. Et le choc est aussi vestimentaire. Les ouvriers arrivent avec des maillots de bain qui font pouffer de rire les aristos bronzés, des caleçons qui remontent jusqu'au nombril des maillots de bain, une pièce très couvrant. Certains ne savent pas quoi faire de ce temps libre, alors ils s'assoient sur la plage et ils comprennent, eh bien, qu'on peut aussi ne rien faire.
Les vacances viennent donc d'être inventées.
Et avec elles, la société des loisirs, les boules sur la place du village, la sieste sous le tilleul comme droit revendiqué, un droit presque révolutionnaire. Les sociologues résument ça en 3D. Délassement, divertissement, développement personnel, avouez qu'il y a pire comme programme. Et cette même année 1936, un chimiste met au point une huile pour bronzer sans brûler, l'ambre solaire, née exactement la même année que les congés payés, quitte à lézarder, autant ne pas revenir écarlate. Alors on va se quitter sur une image de cet été 36, et pour ça, rien de mieux que Jean Gabin.
Merci Paola Purari pour cette remontée du temps.
Il est 6h sur RMC, RMC Story. Très bon réveil à tous.
5-7, le Morning RMC.
Et c'est l'heure du journal de Grégoire Morelli. Bonjour Grégoire.
Bonjour Alice, bonjour à toutes et à tous. Des frappes israéliennes sur l'Iran. Tôt ce matin, une première depuis le cessez-le-feu du 8 avril. La veille, c'est la République islamique qui a ciblé l'État hébreu. Les procureurs généraux attendus ce matin au ministère de la Justice après les dysfonctionnements dans l'affaire Liana. Enfin, après plus de 4 heures d'une rencontre acharnée, Alexander Zverev remporte Roland Garros et par la même occasion, son premier tournoi du Grand Chelem.
Reprise des hostilités entre Israël et l'Iran. Et
oui, c'est une première depuis le cessez-le-feu instauré le 8 avril dernier. Romain Houx, ces dernières heures, donc, Israël dit avoir visé des cibles militaires en Iran.
Oui, des frappes aériennes dans l'ouest et le centre de l'Iran, dont Téhéran, la capitale, où plusieurs explosions ont retenti dans la nuit. Ces bombardements sont présentés comme une réponse aux missiles iraniens tirés dimanche soir contre Israël. 11 missiles, précise l'armée, tous interceptés par le dôme de fer israélien. C'est la première fois depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis il y a tout juste 2 mois qu'Israël est la cible de missiles iraniens. En conséquence, les écoles israéliennes resteront fermées toute la journée. Ces frappes israéliennes en Iran cette nuit viennent encore fragiliser la possibilité d'un accord de paix et risquent bien de contrarier Donald Trump, qui s'est entretenu hier soir avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pour l'exhorter en vain donc de ne pas répliquer contre l'Iran. Le président américain s'était déjà dit, je cite, pas content de l'attaque menée par Israël au Liban quelques heures auparavant.
Romain Houg pour RMC. Pas un haut magistrat ne partira en vacances tant que je n'aurai pas vu un par un les procureurs généraux. Déclaration du ministre de la Justice qui veut faire le point sur les 70 000 plaintes concernant des viols ou attouchements sexuels sur des enfants. Et Gérald Darmanin convoque les procureurs généraux qui seront reçus ce matin dans le sillage de l'affaire Liana, où le principal suspect qui a fait l'objet de 9 procédures n'a jamais été inquiété par la justice. De quoi susciter la colère chez une partie des 6000 participants réunis à Florence dans le Gers hier pour rendre un dernier hommage à la jeune fille.
Je suis en colère parce que c'est quand même une gamine et on ne touche pas une gamine. Un prédateur, surtout que ce gars-là, il était connu, c'est pas la première fois. C'est une honte. Que font nos politiciens ?
C'est révoltant parce que c'est pas normal qu'il y ait des prédateurs comme ça qui traînent partout et on doit protéger nos enfants et jusqu'à maintenant, ils sont pas protégés du tout, quoi.
Toute la semaine, moi, j'ai fait que pleurer. C'est pas des choses qui devraient arriver. Il y a des choses qui sont pas normales et il faut plus que ça arrive.
Et alors aujourd'hui, une centaine de rassemblements sont prévus devant les tribunaux de France en hommage à Liana.
Associations et collectifs appellent à se réunir ce soir à 19h pour dénoncer l'injustice de trop. Des mobilisations à Bordeaux, Brest, mais aussi à Nice et Marseille, Anna Jojard.
Bonjour.
Son paquet de tracts à la main, Anne-Cécile Collet interpelle les passants dans les rues de Nice.
Demain, on a rendez-vous au Palais de Justice, à 19h.
Elle est présidente de l'association de protection de l'enfance Les Petits Invincibles.
On est en colère de ce qui s'est passé pour la petite Liana. C'est l'injustice de trop qui, on l'espère, fera prendre conscience que ça ne peut pas continuer.
Un appel qui trouve un écho auprès de ces Niçoises qui seront devant le tribunal ce soir.
On se sent vraiment concerné. On se dit que maintenant, il serait temps que vraiment ça bouge.
Il faut qu'il y ait une action qui soit prise. Il faut qu'il y ait des décisions de justice qui changent.
Et des rassemblements pour Liana, il y en aura dans plus d'une centaine de villes en France.
Je pense que ça vient parler d'un ras-le-bol.
Stéphanie Nadji est membre du collectif Enfantiste 13 à Marseille.
Liana, c'est pas un cas isolé en fait. C'est ça qui est problématique. Quand on entend M. Macron qui parle de dysfonctionnement, ça nous agace parce qu'on sait que ce n'est pas un dysfonctionnement. C'est tout un système, en fait, qui n'est pas à la hauteur des chiffres des violences sexuelles ou des violences intrafamiliales ou commises sur les enfants.
Elle plaide pour une réforme de la justice et pour faire de la protection de l'enfance une priorité.
Anna Jojard pour RMC.
Et vous allez continuer à réagir au 32-16 ce matin à 6h40. L'invité d'RMC sera la réalisatrice, autrice Andrea Bescon, elle-même victime plus jeune. Et c'est elle qui appelle à la mobilisation générale devant les tribunaux, devant la chancellerie en particulier. Vous réagissez au 32-16 pour dire votre émotion comme vous l'avez fait depuis le début de la semaine dernière. Votre colère aussi. On lit vos messages également sur le WhatsApp RMC au 06 12 424 424.
Emmanuel Macron, lui, est attendu à Amiens aujourd'hui.
Et le président a rendez-vous sur le site de l'entreprise Goodyear, où 120 postes supplémentaires vont être créés. C'est ce dont se félicite l'Élysée, mais après la suppression de plus de 1000 emplois en 2014, la nouvelle ne fait pas forcément la joie de ce bassin industriel sinistré. Inès Zegloul.
Evelyne garde quelques vêtements, alors, comme des reliques.
C'est un t-shirt Goodyear.
Celle d'un temps révolu, de ces années où elle pointait ici tous les jours, avant d'être licenciée il y a 12 ans, mise sur le carreau, comme tous les siens, dit-elle.
On connaît les conséquences sociales qui ont été dramatiques après cette fermeture. Il y a eu des suicides, il y a eu des divorces. Le président est très au courant de ce qui s'est passé chez Goodyear. Aujourd'hui, il vient fanfaronner. C'est une insulte faite aux salariés. C'était comme une espèce de famille.
Il ne reste que la colère et la solitude.
Aujourd'hui, on est tous éparpillés. On ne se voit plus beaucoup. Non, 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 le temps a passé.
Et certains ont fui la zone industrielle où ils ont passé des dizaines d'années.
J'aime plus trop passer par Amiens. Ça me rappelle des mauvais souvenirs. Quand je vois
vois mon usine à moi qui a été rasée, ouais, ça me fait toujours un pincement au cœur.
Alors Alex a dû se mettre au vert à des kilomètres de là. Il a redémarré une nouvelle vie.
J'avais deux crédits, voiture, machin, que j'avais des enfants aussi qui avaient commencé des études et tout. Je suis traité depuis en hypertension artérielle. Aujourd'hui, on viendrait faire une propagande en disant que c'est grâce à eux si maintenant il y a du boulot, quoi. Pas du tout.
Une vaste blague, conclut-il.
Un crash d'un hélicoptère de la gendarmerie dans le Loiret. Un gendarme est mort, deux autres sont en urgence absolue. Le drame a eu lieu sur le massif de Loris, près d'Orléans.
Il est 6h06 sur RMC et la quatrième fois aura été la bonne pour Alexander Zverev.
Ah oui, après trois finales de Grand Chelem perdues, il a finalement remporté son premier majeur. Hier, à Roland-Garros, succès en cinq manches face à l'Italien Coboli. Et c'est l'aboutissement d'une quête de toujours pour l'Allemand, Julien Taxis.
Oui, allongé en pleurs sur le court central, Zverev a enfin fendu l'armure. Après 4h16 de combat face à Coboli, l'Allemand a laissé parler ses émotions.
Tout d'abord, j'avais du mal à croire que j'avais gagné. Puis j'ai vu mon box, que tout le monde était en train de fêter ça. J'ai vu mon père lever les bras, ça m'a frappé d'un coup. Je suis tombé sur le sol et toutes les émotions sont remontées.
Menant tout au long du match, la tête de série numéro 2, rattrapée par la pression, a dû finalement attendre la cinquième manche pour s'imposer. Mais pour Coboli, le meilleur des deux a gagné.
Zverev joue ici depuis 10 ans, il méritait de remporter un grand chelem. Je pense qu'il mérite plus que moi, tout simplement parce qu'il a gagné, mais aussi pour l'ensemble de sa carrière.
Comme un symbole, c'est à Roland-Garros que l'Allemand s'offre le plus grand titre de sa carrière, là où il s'était gravement blessé à la cheville il y a 4 ans.
Je vis le meilleur moment de ma vie sur ce court, mais j'y ai aussi vécu le pire. Il y a 4 ans, j'étais allongé là-bas, incapable de me relever. J'y ai aussi perdu une finale, mais là c'est une fin heureuse.
Zverev devient le troisième Allemand à remporter un tournoi du Grand Chelem, mais le tout premier à Roland-Garros dans l'ère Open.
Et au programme ce soir du football, dernier match des Bleus avant leur départ pour la Coupe du Monde. Les Français affrontent l'Irlande du Nord à Lille. Début de la rencontre à 21h10 à suivre bien sûr sur RMC. RMC, radio officielle de la Coupe du Monde 2026. Et dont le coup d'envoi sera donné dans 3 jours.
Trois jours seulement.
Seulement. Mais non, mais ça y est, on va commencer à compter les heures.
Les dodos.
On va attendre demain. Les dodos, oui. Faut compter les siestes de l'après-midi aussi.
Bah, nous, oui, ça fait beaucoup.
Ouais, je sais pas. Bon, en attendant, on va reparler de politique avant de reparler de football, évidemment. Jean-Luc Mélenchon tenait son premier grand meeting de campagne hier. Il y a quoi? Il y a eu le SMIC à 1 700 €, l'abrogation de la réforme des retraites, mais surtout LFI qui essaye de s'installer comme rempart face à l'extrême droite. On vous pose la question, candidat de gauche crédible. Vous réagissez au 32-16 ce matin. Serge n'est pas fan de Jean-Luc Mélenchon, je crois. Bonjour Serge.
Bonjour Serge.
Oui, bonjour Mathieu. Bonjour. Oui, non, fan. Non, il me laisse pas indifférent. Loin de là. Oui, il me laisse pas indifférent. Non, parce que vos éléments de langage, toujours, c'est pareil. L'extrême droite, les fachos. Dès l'instant qu'on n'est pas d'accord avec la gauche, on est d'extrême droite ou fachos.
Alors, on n'a pas dit fachos, Serge, ce matin.
Non,
ce matin.
Très bien.
C'est de nous dont vous parlez ou des Mélenchonistes?
Un peu des deux, parce que les médias sont parfois un peu un relais. Maintenant, je dirais la population qui écoute les médias le sait, hein. Son programme, je veux dire, on sait que vous penchez à gauche, et puis moi je vous le reproche pas.
Vous trouvez que les médias sont trop à gauche en ce moment, Serge?
Ils ont toujours été à gauche, Mathieu, l'histoire le démontre.
Mais vous trouvez vraiment que c'est le discours dominant, le discours de gauche dans les médias aujourd'hui?
Ah oui, même vous, Mathieu, hein. Moi, je vous suis depuis l'époque Bourdin. Vous avez évolué dans différentes chaînes de télé, dans différents. Mais je vous le reproche pas.
C'est gentil de me suivre. Mais non, mais Serge, on essaye d'être le plus clair. Ici, en tout cas, je veux pas parler pour tous les médias parce que c'est trop risqué, trop dangereux.
Oui.
Ici, en tout cas, vous savez que tout le monde a la parole, Serge.
Bien sûr,
il y a pas d'un côté, on va donner la priorité à tel auditeur ou tel auditeur, Serge.
Non, bien sûr, c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire parfois. C'est pas ce que je veux dire. Je veux dire parfois qu'il y a des remarques, des petits mots qui sont dispersés dans votre com. Et puis mais c'est comme ça, c'est la vie.
Mais donc Serge, le Rassemblement National est pas d'extrême droite?
Non. Alors dans ces cas-là, LFI est d'extrême gauche.
Mais vous savez que ça fait débat d'ailleurs, hein. C'est le Conseil d'État qui tranche in fine. Je crois que sur le dernier scrutin, je crois que sur les municipales, ils étaient classés extrême gauche LFI, et que c'était pas le cas avant. Le RN d'extrême droite depuis toujours.
Dans ces cas-là, dites les deux.
Je crois qu'on entend les deux, hein, Serge. Mais
ouais. En tant que formation politique, Serge, est-ce que, sans rentrer dans les considérations extrême droite et extrême gauche, est-ce que la France insoumise peut faire concurrence de l'ombre, peut faire rempart, c'est le mot qu'ils utilisent eux, au Rassemblement national, finalement?
Oui. Alors moi, le rempart, j'y crois pas, parce que je veux dire, un parti qui est anti-français, anti-flic, la police tue, antisémite, pro-Hamas, je vois pas le rempart. Je vois pas le rempart. Ouais, quasiment bon, impossible. Quasiment anti-blanc.
Alors, écoutez, vous allez écouter Charles Consigny avec attention à 7h50, Serge, j'en suis sûr. Mélenchon, une gauche contre-productive, dit-il, c'est la voix de droite ce matin. Et Serge, vous voyez, tout le monde peut s'exprimer, exprimer son opinion. On va reparler beaucoup de politique dans les mois à venir. Et je serais ravi de vous accueillir à nouveau, Serge.
Allez, bonne journée. Moi,
bonne journée à vous. Merci beaucoup d'avoir appelé ce matin. Il est 6h11.
Et dans un instant, c'est le choix de la rédaction. La Coupe du Monde 2026 débute dans 3 jours. Bonjour Célestin Bougère.
Bonjour.
Célestin, il y a un phénomène qui cartonne, ce sont les concours de pronostics.
Et ouais, déjà, on commence à se charrier pour savoir qui est le plus grand expert football entre amis, dans la famille ou entre collègues.
C'est vous, non, Célestin?
C'est moi.
Ouais, tout de suite sur RMC, RMC Story.
5h-7h.
5-7, le Morning RMC.
Élise Dangean, Mathieu Béliard.
Il est 6h15 sur RMC et RMC Story, J-3 avant la Coupe du Monde.
RMC, le choix de la rédaction.
Et on le sait, les paris sportifs vont cartonner, mais ce matin, on va parler des concours de pronostics gratuit, en famille, entre amis, entre collègues. Le phénomène explose et les applications sont de plus en plus nombreuses. D'ailleurs, Célestin Bougère, de nombreuses entreprises ont décidé de lancer un concours de pronostics.
Et oui, je suis allé par exemple à Viry-Châtillon dans l'Essonne, au siège de la branche énergie et services de l'entreprise de BTP Fayat. 1000 salariés sont attendus sur l'application Corporico qui permet d'enregistrer son pronostic pour tous les matchs de la Coupe du Monde. Pas d'argent en jeu. Le principe, plus le pari est risqué, plus vous gagnez de points si vous avez raison à la fin du match. Je rejoins deux voisins de bureau, Paul Aubin, responsable des achats, et Pauline Kramer qui s'occupe de la base fournisseur de l'entreprise. Des maillots sont accrochés un peu partout sur les murs. Il y a des drapeaux bleu, blanc, rouge partout. On sent que la compétition commence à arriver.
On l'a déjà fait il y a 2 ans pour l'Euro. D'ailleurs, j'avais gagné. C'est marrant, c'est bonne ambiance, c'est fun, c'est cool. Franchement, je suis à fond, donc j'ai trop hâte que ça commence. T'as commencé, toi?
Bien sûr.
Déjà, on peut voir votre pari final pour le vainqueur.
La France, évidemment, on est chauvin. Sur les têtes de série aussi pour les différents groupes.
Et là, est-ce que vous pouvez me montrer, par exemple, ce que vous avez parié pour l'instant?
Bien sûr.
T'as mis Mexique, ouais. Non, moi, je dirais plus l'Afrique du Sud.
Ouais,
l'Afrique
bien sûr.
Bah, on sait jamais, hein.
Non, mais
bah,
c'est la belle surprise.
Bah, on verra bien. Hein.
Quand moi, je joue safe, elle est plutôt audacieuse. Voilà, elle prend les 130 points directs sur
l'équipe auquel personne ne pense. Franchement, j'avais même pas vu les points. C'est les couleurs qui me parlent.
Voilà, donc là, on joue vraiment sur les fondamentaux, les drapeaux. C'est ça qui oriente le pari.
Merci, t'as mis la France quand même.
Bah, on se régale.
Vous pensez que vous avez une chance de gagner quand même, ou ça va être compliqué?
On sait pas, hein. Il a de la chance, lui, hein.
C'est pas que de la chance. Je vais pas vous mentir, monsieur, on joue pour gagner. Hein.
Que le meilleur gagne.
Et à la fin de la compétition, les 10 salariés avec le plus de points remporteront un barbecue électrique, un air fryer ou encore des écouteurs. L'application Corporico va être utilisée par près de 400 entreprises pour la Coupe du Monde. Un record selon David Belaïch, le cofondateur de la société qui édite ce site.
On a autant d'experts en foot que de novices, autant d'hommes que de femmes, autant de jeunes que de personnes plus âgées. On a complètement modernisé soit le papier, soit même le tableau Excel ou le tableau Velleda.
On a plus le collègue qui vient effacer son pronostic de la veille sur le tableau Velleda.
Exactement, ça évite les conflits.
Alstom, Stellantis, Saint-Maclou, les comités d'entreprise de ces sociétés ont déjà invité leurs salariés à faire leurs pronostics.
Mais alors, il n'y a pas seulement dans les entreprises, hein, qu'on parie.
Eh non, tout le monde se lance avec des applications comme Scorecast ou Mon Petit Prono. Une salle de sport fait gagner 1 an d'abonnement aux meilleurs parieurs, un réparateur de téléphone, des cartes cadeaux, des restaurants, des bars se prêtent au jeu, et même un EHPAD à Saint-Martin-des-Champs dans le Finistère. Nathalie Vignard, l'animatrice, récolte les pronostics des résidents à chaque compétition internationale depuis 2012.
C'est un moment très convivial. Cet engouement, je peux même pas l'exprimer. C'est tellement beau à voir. Ils sont tellement heureux de faire ça. Bon, il y a aucun mystère. Tout le monde a mis la France qui gagne. Donc, c'est des chauvins.
Et à la fin, le vainqueur a le droit à une coupe avec son nom inscrit dessus. Le trophée est remis en jeu tous les 2 ans à chaque compétition.
Et certains se lancent même en famille ou entre amis.
Oui, et là, c'est plus la même histoire. C'est son honneur qui est en jeu. Je suis allé chez Vincent, un avocat. Son frère Louis est à l'étranger en ce moment. Ils se sont appelés pour débattre de leurs pronostics et ils ne sont pas forcément d'accord.
Salut frérot.
Salut vite.
Moi je vois la France aller loin mais pas gagner en finale. J'ai été impressionné par l'Espagne et donc moi je les vois gagner.
Vincent, d'accord avec votre frère ou pas forcément?
Moi je vois une finale Brésil-Portugal.
Et c'est qui le meilleur un peu dans la famille?
Clairement moi.
Oui, est-ce que vous confirmez, est-ce que c'est votre frère le meilleur dans cette compétition ou pas du tout?
Il n'y a pas une domination incontestée de Vincent dans la famille, non. Ça je préfère être clair. On est souvent étonné par notre père qui sort des pronos originaux qui sur le moment nous font bien marrer et qui après peuvent se révéler.
Et vous gagnez quoi?
On gagne le droit d'arrêter de se faire chambrer et le droit de chambrer les autres jusqu'à la prochaine compète.
Un rendez-vous dès jeudi pour cette famille puisque le père a pronostiqué un beau parcours du Mexique, c'est risqué, qui joue le match d'ouverture contre l'Afrique du Sud.
Ouais, mais qui joue à domicile quand même. Qui est le meilleur organisateur. Beau parcours, on peut l'espérer pour les Mexicains. Vous n'avez pas parié dessus, vous?
Non, demi-finale, finale, Mexique, j'ai pas parié dessus.
Vous avez déjà parié, vous?
J'ai déjà parié.
Il a déjà fait ses paris.
Il n'est pas encore dans la bande du morning. Moi, ça y est, je me suis inscrite. Hein.
Inscrite? Ouais. Maintenant, il faut faire les pronoms.
Je sais, mais je m'appelle Lily du morning.
N'importe quoi.
Reste à faire les pronoms maintenant, il y a un peu de boulot.
Célestin Bougère, merci beaucoup. Vous aussi, dites-nous si vous avez lancé vos concours de pronoms entre copains, dans la boucle WhatsApp, entre collègues, évidemment, en famille aussi. Vous ne manquerez rien de cette Coupe du Monde, donc vous restez bien branchés sur RMC pour pouvoir faire vos pronostics de façon éclairée. 40 personnes sur place aux États-Unis, Canada, Mexique, États-Unis, je l'ai dit, notamment 10 reporters sur le terrain et un studio RMC délocalisé à New York, s'il vous plaît, aux abords du MetLife Stadium où aura lieu précisément la finale le 19 juillet prochain. Il est 6h20.
Allez, un peu de Taylor Swift ce matin pour vous annoncer, Mathieu, qu'elle rejoint Bad Bunny dont vous avez parlé. Elle rejoint Bad Bunny au casting de Toy Story 5, en tout cas au casting musical. Et alors, pour l'occasion, la superstar américaine a renoué avec ses racines musicales. En country, exactement, le retour de l'harmonica, du banjo pour une bonne chanson country comme on les aime. C'est avec ça que Taylor Swift a démarré sa carrière il y a 20 ans. Écrire cette chanson, dit-elle, m'a donné l'impression de prendre un nouveau départ musical tout en retrouvant mes racines. Elle a posté sur Instagram une vidéo d'elle enfant déguisée en cowgirl. Et justement, ce morceau, elle l'a écrit pour Jessie, la cowgirl de Toy Story, qui est apparue dans le deuxième volet. Taylor Swift, qui est fan de la saga d'animation Pixar depuis qu'elle a 5 ans, vers l'infini et l'au-delà, dit-elle, référence à Buzz l'éclair. Le film sortira en salle le 17 juin.
Il est 6h21 sur RMC et RMC Story. Les trois grands titres de l'actualité.
Et les procureurs généraux ont rendez-vous ce matin avec Gérald Darmanin. Réunion de travail avec le garde des Sceaux. 4 jours après la découverte du corps de Liana, le ministre de la Justice leur donne jusqu'au 14 juillet pour revoir l'intégralité des dossiers pour violence sur enfants. L'escalade au Moyen-Orient avec des explosions entendues cette nuit en Iran. Des cibles militaires visées par Israël en réplique. Et puis un dernier test pour les Bleus avant le Mondial. C'est ce soir face à l'Irlande du Nord à 21h10 sur RMC.
Il est 6h22 et le docteur du morning est là. Bonjour Aurel Gage.
Bonjour.
C'est l'heure de la consultation gratuite.
Et oui, on va s'intéresser au sang lorsque vous le donnez. Qu'est-ce qu'il devient? Est-ce qu'on le donne tel quel ou alors est-ce qu'il a un petit traitement magique?
A tout de suite sur RMC et RMC Story.
Jusqu'à 7h.
5-7. Le morning RMC.
Élise Dangean, Mathieu Béliard.
Il est 6h26 sur RMC et RMC Story.
RMC, consultation gratuite.
Et à l'approche de l'été, les réserves de sang sont particulièrement surveillées. Aurel Gage, donner son sang sauve des vies. Mais au fond, quand vous donnez du sang, qu'est-ce qu'on récupère exactement? C'est la question qu'on se pose ce matin. Déjà, est-ce qu'on transfuse votre sang tel quel à un patient, d'un patient à un autre?
Maintenant, en fait, pour ça, il faut savoir ce qu'il y a dans le sang. Donc, je vais prendre un exemple. Il faut imaginer une soupe avec des morceaux. Donc d'abord, il y a le bouillon, évidemment. Le bouillon,
il est en train de remplir un verre d'eau, Aurel Gage.
Voilà. C'est le plasma.
C'est le plasma. Donc le plasma, okay. C'est le bouillon. En plus, dedans, il y a quelques protéines pour donner du goût, principalement des petites protéines pour la coagulation et des anticorps. Voilà. Donc là, vous avez votre petit bouillon. Donc ça va avoir une première indication, c'est pour les personnes pour qui il va falloir changer le bouillon. Donc des gens qui ont des maladies où il y a des anticorps qui vont s'attaquer à eux, parfois il faut le faire en urgence. Ou alors des gens pour qui il manque du volume. Puis ensuite, vous allez avoir le composé que Dracula adore. Les globules rouges,
ah oui.
Ce qui donne la couleur rouge à votre sang. On ajoute les globules rouges, ça permet de transport en oxygène. Bon, Ensuite, on va avoir, vous connaissez quoi d'autre comme composant? Les globules blancs, les policiers du corps. Alors ça, on n'aime pas du tout quand on transfuse. C'est pour ça on les enlève. Pourquoi? Parce qu'ils s'attaquent à tout ce qui est étranger. Donc si je vous mets des globules blancs, si je vous mets des globules blancs dans le corps de quelqu'un d'autre, ça va s'attaquer à lui.
C'était des petits méchants là dans Il était une fois.
Ils sont avec la matraque, tout ça.
Moi, parfois, j'ai fait des longs, les trucs longs là où on donne les. Je sais plus ce que c'est. Ça dure 1h30 le don.
Ah bah justement, là, on va prendre les plaquettes.
Voilà,
les plaquettes, c'est le dernier. Les plaquettes, c'est à quoi ça sert?
Bah non,
ça sert à coaguler, ça sert pas à changer de chaîne. Elle était pourrie, fallait que je la fasse. Voilà. Donc au final, dans votre sang, vous allez avoir quatre composés, donc le bouillon, le plasma, les globules blancs pour vous défendre qu'on va enlever, les globules rouges pour le transport en oxygène, les plaquettes pour coaguler.
Et donc, on peut choisir ce qu'on donne?
Alors, oui, on peut choisir ce qu'on donne, mais généralement, le plus simple, ça reste de donner tout votre sang. C'est juste que, par exemple, si on prend que les plaquettes, on prendra beaucoup plus de plaquettes quand on prend du sang. Donc, ça permet, en fait, à l'établissement français du sang de gérer ces quantités. Mais sachez que, si vous voulez donner votre sang, c'est très facile. Vous allez sur don du sang, vous allez directement après dans un établissement pour le faire. Ça met une demi-heure quand c'est du sang, un peu plus longtemps lorsque c'est un décomposé uniquement.
Bon.
Très facile et très important.
Hein, mais au moins, mais c'est vrai que on le fait parce qu'on nous dit qu'on a besoin de le faire. On ne sait pas ce qu'on fait.
On a besoin de 10 000 poches par jour.
Allez-y. C'était bien d'avoir ce rappel-là du docteur Gage ce matin. Merci Aurèle avec votre soupe.
Bon appétit.
Soupe avec grumeaux. Avec
vous allez la boire ou pas?
Avec la boire.
S'il vous plaît.
Non, on dirait les analyses de Contador.
Pardon. Il y a une infection là-dedans.
Il est 6h28 sur RMC. Lionel est avec nous dans les Hautes-Alpes. Bonjour Lionel.
Bonjour Lionel.
Bonjour. Bonjour à vous, bonjour à toute l'équipe.
Ça va bien Lionel ce matin?
Ouais, ça va bien, très bien.
Ça va aller encore mieux si vous avez identifié le mot caché.
Exact.
Alors
je dirais que c'est le mot salonard.
Exactement.
Vous savez ce que ça veut dire?
Ah ben c'est les personnes habituées au salon mondain, mais de manière un peu superficielle.
C'est les snobs, voilà.
C'est bien dit, et en tout cas, ça vous permet, ces salonards, ils vous permettent de repartir avec votre Winbot Mini 2 d'Ecovac. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous l'explique, parce que c'est ma passion. C'est ce robot laveur de vitres et de fenêtres automatiques intelligents qui nettoie toutes les surfaces vitrées en sécurité dans la maison.
C'est ce que j'ai compris, que ça vous plaisait bien.
Voilà, c'est pour vous, Lionel. Moi, je veux bien un retour d'expérience. Quand vous l'aurez testé, vous nous écrivez sur le WhatsApp RMC pour nous dire ce que vous en avez pensé, Lionel, d'accord?
Ok, d'accord.
Félicitations. On vous envoie ça dans les
Hautes-Alpes. Bonne journée à vous.
Bonne journée.
Merci beaucoup.
Bonne journée, Lionel.
Il est 6h30 sur RMC et RMC Story.
5-7, le Morning RMC.
Et c'est l'heure du journal avec Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour à tous les deux, bonjour à tous.
C'est à la une, les conséquences de l'affaire Liana.
Deux rendez-vous aujourd'hui. D'abord les procureurs généraux convoqués ce matin par Gérald Darmanin et des rassemblements dans toute la France ce soir devant les tribunaux pour dénoncer une injustice de trop. On reviendra aussi sur le premier grand rassemblement de campagne de Jean-Luc Mélenchon qui se présente comme l'unique voix de la gauche pour 2027, vous allez l'entendre. Et sur les Bleus à Lille pour un dernier match de préparation avant de décoller pour le Mondial.
Les procureurs généraux sont convoqués ce matin au ministère de la Justice.
Par le garde des Sceaux Gérald Darmanin, critiqué par les oppositions, c'est dans la foulée de l'affaire Liana et des dysfonctionnements judiciaires que ce drame fait encore apparaître, hein, Romain Cluzel.
Gérald Darmanin veut taper du poing sur la table parce qu'il estime que ses consignes n'ont pas été suivies concernant les plaintes de violences sexuelles sur mineurs. Alors le ministre de la Justice demande de revérifier un par un les 70 000 dossiers existants aujourd'hui en France et il prévient.
Je ne partirai pas en vacances et il n'y a pas un haut magistrat qui va partir en vacances tant que je n'aurai pas vu un par un les procureurs généraux pour qu'on fasse le bilan de sa cour d'appel, qu'on voit ce qui manque. S'il y a des difficultés ici ou là, peut-être des problèmes avec le ministère de l'Intérieur, peut-être des problèmes d'experts parce qu'il manque des psys ou des médecins légistes. Il peut y avoir ce genre de problème.
Le garde des Sceaux balaye les appels à sa démission venus notamment des socialistes et des insoumis et tente de renvoyer la pression sur les magistrats. Des sanctions pourront être prises après la publication de l'enquête administrative en cours. Et Gérald Darmanin le précise, cela peut aller jusqu'à la révocation.
Cette réunion avant des rassemblements ce soir à 19h devant une centaine de tribunaux à l'appel de collectifs et d'associations et au lendemain d'une marche blanche qui a rassemblé 6000 personnes à Florence, là où a été aperçue, hein, vous le savez, Liana pour la dernière fois en montant donc dans la voiture d'un suspect visé désormais par 9 procédures pour violences sexuelles.
Et juste après ce journal, nous serons en direct avec Andrea Bescon, réalisatrice, autrice, militante. C'est elle qui a lancé cet appel à manifester devant les tribunaux aujourd'hui. Les procureurs convoqués, hein, reçus par le garde des Sceaux, Frédéric Chevalier qui est président de la Conférence nationale des procureurs de la République. Lui sera à 7h40 avec Apolline. Vous continuez à réagir, à dire votre émotion, votre indignation ce matin au 32-16 comme vous le faites depuis quelques jours.
Et pendant ce temps, la course à la présidentielle est bel et bien lancée à gauche.
Les Insoumis revendiquent 26 000 participants hier à Saint-Denis pour le premier grand rassemblement de campagne de Jean-Luc Mélenchon qui se présente comme le seul candidat de la gauche capable de faire rempart à l'extrême droite. Et alors Cyprien Pedril, ça, il a tenu à le faire savoir.
Des drapeaux tricolores plus nombreux que d'ordinaire et un slogan jusqu'alors jamais entendu à gauche. On est chez nous, la formule venue de l'extrême droite et détournée par les Insoumis et Jean-Luc Mélenchon.
Mesdames, messieurs les fachos, on est chez nous.
Manière de s'ériger en seul rempart face au Rassemblement National, en balayant du même coup les autres partis de gauche.
La première force politique de la gauche, la voici. La primaire est finie. C'est nous qui avons gagné l'honneur de marquer en première ligne.
Dans la foule, les militants galvanisés, ici Nicolas et Anna.
La dynamique est du côté de la France insoumise. Il n'y a pas de division inutile, pas de querelle de personne.
Plus on avance, plus on voit bien que la seule gauche qui reste, c'est la France insoumise et que le PS et même les écolos maintenant,
Ces derniers temps, notamment face aux polémiques, Noé, lui, hésitait à soutenir à nouveau Jean-Luc Mélenchon.
Moi, j'ai douté beaucoup. J'ai l'impression qu'on est beaucoup à se raviser. Je suis passé, je pense vraiment, de plus jamais. On a une chance.
Un début de campagne scruté par le reste de la gauche, un chef du PS s'interroge. Mélenchon est parti haut et fort, mais aura-t-il les moyens de tenir dans la durée?
Les échanges de tirs ont repris cette nuit entre Israël et l'Iran, en première depuis le cessez-le-feu. Israël dit avoir été visé par des missiles iraniens avant de répliquer sur des installations militaires en Iran. Il y a Donald Trump qui appelle à la retenue. Et alors c'est dans ce contexte qu'on couvre aujourd'hui le fameux guichet d'aide au carburant pour les artisans du BTP désormais, qui vont pouvoir bénéficier d'une aide de 20 centimes par litre de gazole non routier, avec un plafond quand même de 4000 euros par entreprise pour celles qui ont moins de 50 salariés, Lou Garnier.
C'est un sursis, annonce Vincent Gauthier. Il est à la tête d'une PME de 7 salariés spécialisée dans les travaux publics.
On consomme dans les 5000 litres par mois. On a eu quand même des tarifs à 70 centimes il y a un an du litre du GNR. Aujourd'hui, on a eu des factures à 1,70 €. Ça représente un petit accompagnement, on va dire.
Il devrait toucher 1 000 euros d'aide au total. Alors, cette subvention du gouvernement est sous condition. Alexandre Mahou est électricien. Il emploie une dizaine de personnes. Lui n'est pas éligible car ses véhicules ne roulent pas au GNR. Pourtant, depuis le début du conflit au Moyen-Orient, son entreprise peine à faire face.
On est à moins 20% de chiffre d'affaires par rapport aux années précédentes. On avait en début d'année pas mal de prévisions de chantier qui ont tous été soit mis en stand-by, soit été arrêtés.
Il regrette une aide trop ciblée. Sans subvention, l'heure est aux économies.
On limite les investissements. On est clairement plus regardant sur la distance des chantiers. Avant, ce n'était pas du tout un critère. Aujourd'hui, ça l'est parce qu'on fait que ça aura un impact significatif sur nos marges.
Il l'avoue, si la situation perdure, il devra licencier des salariés.
Il est 6h35 sur RMC. Les Bleus se réveillent ce matin à Lille.
Où ils joueront ce soir à 21h10 leur deuxième et dernier match en préparation à la Coupe du Monde contre l'Irlande du Nord. Pour faire oublier la défaite contre la Côte d'Ivoire et aussi pour rendre un dernier hommage à Didier Deschamps qui va diriger ce soir à son dernier match sur le sol français, Valentin Jamin.
Oui, et hier, devant l'hôtel des Bleus, des dizaines de supporters attendent les joueurs, mais aussi le sélectionneur, Jérôme et Cédric, ne veulent pas le rater.
C'est symbolique, je suis fan de lui, c'est génial et c'est sa dernière et on a tout gagné avec lui, c'est un compétiteur hors norme.
C'est émouvant aussi, hein. C'est toute une période qui se termine, mais bon.
À Nantes, jeudi dernier, Didier Deschamps a déjà eu un hommage avec des banderoles acclamées dans tous les stades ces derniers mois. Il détient le record du nombre de matchs dirigés et de victoires à la tête des Bleus. Ilan le remercie.
Franchement, avec le palmarès qu'il nous a ramené, on peut que le féliciter. Il a été exceptionnel pendant toutes ces années. Il nous manquera. J'espère qu'il nous ramènera la troisième étoile.
Déjà champion du monde 2018, finaliste en 2022, comme à l'Euro en 2016, le sélectionneur a eu un message de son milieu, Adrien Rabiot.
Ça me touche, beaucoup d'émotion, de compassion. Le coach a fait un grand travail avec cette équipe de France. J'espère qu'il sera célébré parce qu'il le mérite vraiment.
Les 50 000 spectateurs devraient offrir à Dédé une belle ovation.
Ça m'attriste pas, je vais pas sauter de joie non plus. Ce qui est important pour moi, c'est de faire le plein d'énergie avec... autant de soutien, d'enthousiasme.
Avant probablement de laisser la place à Zinedine Zidane après le Mondial.
Didier Deschamps qui se décrit comme un bon vivant ce matin dans le journal Le Parisien. Je vous rappelle
on n'y croit c'était... pas nous.
Ah bon?
Avec Élise, on a décidé que non.
Non. On a décidé que ceux qui disent, qui se sentent obligés de dire qu'ils sont bons vivants ne sont pas bons vivants.
Et moi, ceux qui sont capables de tenir une heure en gainage ne sont pas des bons vivants.
Ça.
C'est déjà le bac philo ce matin. Bon, je vous rappelle que c'est jeudi soir que commencera la Coupe du Monde sur RMC Radio officielle.
Dans trois jours. Hein.
J'ai plein d'autres infos à vous donner. Allez-y. En sport ce matin. Il y a autre chose que le foot dans la vie. Alexander Zverev, vainqueur de Roland-Garros. Oui. Premier grand chelem de sa carrière. Ça faisait 89 ans qu'un Allemand n'avait pas gagné ce tournoi. Les filles de Metz qui remportent la Ligue des Champions, sacrée hier en Hongrie. Première pour le hand féminin. La victoire d'Alex Baudin hier après-midi sur la première étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes en cyclisme. Répétition avant le Tour de France à laquelle participe Paul Sexas. Et puis tiens, le podium d'Isaac Hadjar, français qui termine troisième du Grand Prix de Monaco en Formule 1. Course remportée par l'Italien Kimi Antonelli.
Le Quintet, c'est à Angers aujourd'hui.
À 18h30, à 13h50, pardon, les pronostics de la Dream Team des courses RMC. Le 2 et le 9 aujourd'hui. Le 2 en favori, Zulu Warrior. Et le 9 en outsider, King Tracy.
Merci beaucoup, Quentin Vinet. C'était le journal. Il est 6h38 sur RMC et RMC Story. Cyril est en ligne avec nous dans les Yvelines. Conducteur VTC qu'on connaît bien. Bonjour, Cyril.
Bonjour.
Bonjour Cyril, vous vouliez réagir au propos de Serge, notre auditeur, tout à l'heure, sur Jean-Luc Mélenchon, l'extrême droite, la France insoumise qui nous fait rempart à l'extrême droite.
Déjà, ça m'amusait à dire, hein, mais Mathieu, vous avez des propos de gauche, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, mais sans déconner, à un moment donné, il faut changer de disque. J'ai l'impression que le problème de la France, c'est l'immigrant et la gauche. Mais il y a d'autres problèmes en France, on a d'autres problèmes. On a un pays qui est à la ramasse complexe, soit dans les institutions. Il n'y a pas d'argent, il n'y a rien du tout. On a encore des problèmes, on est en train de se rendre compte qu'il y a des problèmes dans la justice. Mais ça fait 40 ans qu'on le dit. Et vous avez un mec qui vient au téléphone nous dire, ah ouais, mais Marine Le Pen,
mais
Il y en a marre des discours comme ça. Mais que les Français arrêtent d'être bêtes. Mais qu'il arrête d'être bête, ce mec.
Je voudrais défendre Serge, pardonnez-moi, qui est intervenu.
Non, il n'y a pas de défense.
Non, mais Cyril, pardonnez-moi, c'est de ma faute. Quand je pose la question.
C'est pas de votre faute. Les mecs, vous dites.
Faudra prendre Cyril en avocat, Mathieu.
Cyril, pardonnez-moi.
Mais Mathieu.
Cyril, vous allez pouvoir répondre. Vous allez pouvoir répondre, c'est promis. Serge, il répondait à une question qu'on a posée. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon peut être un rempart face à l'extrême droite? Et c'est à cette question-là qu'il répondait. C'est pour ça qu'il a appelé pour dire ça, Cyril.
Mais le mec après va nous dire oui mais vous êtes des tendances de gauche, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, Marine Le Pen, voilà, c'est Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, c'est Jean-Luc Mélenchon, les gens ils font leur choix, ils votent ceux qu'ils veulent, il n'y a pas besoin de dire. D'ailleurs Jean-Luc Mélenchon était catalogué extrême gauche il n'y a pas longtemps par, je crois que c'est Laurent Nunez il me semble, hein, donc par le conseil constitutionnel ou institutionnel, oui. Je sais plus quoi, mais on s'en fout, c'est pas un concours.
Cyril, aujourd'hui, merci beaucoup. Mais cela dit, je suis très content que vous ayez pu réagir. J'imagine Cyril en train de bondir dans sa voiture pendant l'intervention de Serge tout à l'heure. Et ben voilà, vous avez composé le 32-16 et vous êtes en direct avec nous aussi. On va parler beaucoup de politique dans les mois qui viennent. Il va falloir s'échauffer et se remettre dessus parce qu'il y a la présidentielle en vue. Évidemment, Cyril, merci d'avoir composé le 32-16.
Il est 6h40 et dans un instant, on revient sur Liana, 11 ans, tuée dans le Gers. Jérôme Barella, le suspect visé par 9 procédures. Notre invitée à 6h40, c'est la réalisatrice Andrea Bescon, elle-même victime de viol dans son enfance. Elle appelle à des rassemblements ce soir à 19h devant les tribunaux de France.
Bonjour Andrea Bescon.
Bonjour.
Vous allez nous dire dans un instant justement ce que vous réclamez devant les tribunaux. Puis la bande du morning est là, Virginie Fulpin pour la causerie, Anthony Morel pour C'est déjà demain. A tout de suite sur RMC et RMC Story.
Jusqu'à 7h.
5-7, le Morning RMC.
Élise Dangean, Mathieu Béliard.
Il est 6h44 sur RMC et RMC Story. Liana, 11 ans, a été retrouvée morte jeudi dans le Gers. Le suspect, Jérôme Barella, a fait l'objet de 9 procédures. Et hier, ce sont 6000 personnes qui sont réunies pour la marche blanche organisée à Fleurance. Ce matin, Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, réunit les procureurs généraux. Il ordonne la revue de 70 000 plaintes impliquant des enfants d'ici au 14 juillet.
Bonjour Andrea Bescon.
Bonjour.
Vous êtes réalisatrice, autrice. Vous avez été victime de viol dans votre enfance vous-même et vous avez mis cette histoire en scène dans la pièce Les Chatouilles ou La Danse de la Colère. Elle sera jouée d'ailleurs le 10 juin en Folie Bergère au profit de l'association La Fondation des Femmes le 10 juin, c'est après-demain, mercredi. Vous appelez à manifester ce soir à 19h devant tous les tribunaux de France. Manifester contre qui et pourquoi ?
Manifester de manière pacifique parce que cela fait des années que les associations tirent la sonnette d'alarme concernant la mentalité de la justice et aussi les budgets. Les enfants sont violés en masse par des pédocriminels récidivistes. Je veux dire, on est 90% des victimes de viol dans l'enfance avoir été violées par des personnes récidivistes. Donc il est complètement fondamental aujourd'hui de se réunir, d'avoir un mouvement citoyen autour de l'événement. Liana, c'est vraiment la justice de trop.
Un soulèvement même, Andrea Bescon.
Un soulèvement, vous savez, je suis pas dans la tête des gens. Il est important de se réunir, il est important en tout cas que le gouvernement et les gens qui nous gouvernent constatent qu'aujourd'hui, on ne peut plus tolérer ces injustices. Je vous dis, ça fait des années, nous on a toujours eu beaucoup de mal à fédérer autour des violences faites aux enfants. C'est quelque
Pourquoi,
chose...
Pourquoi, Andréa Bescon? Parce que là, vous le dites, vous dites, appelez-vous, organisez-vous, oui, que nous soyons nombreux, ça c'est votre message. Pourquoi est-ce qu'on a du mal à fédérer sur une cause qui semble pourtant évidente?
Parce que nous n'avons pas la même force de communication, nous, les personnes qui œuvrons pour la protection de l'enfance. C'est David contre Goliath. On a le gouvernement qui dit, nous, on a tout fait, on a mis les budgets. Alors, ce n'est pas vrai. Ou alors, on vit dans une dimension parallèle, mais ce n'est pas vrai. Ils sont au courant depuis des années et des années qu'il y a un vrai problème d'impunité. Quand Monsieur Darmanin dit aujourd'hui, je vais réunir tout le monde et personne n'ira en vacances avant que nous ayons traité chaque dossier, je tombe de ma chaise, en fait. C'est quelque chose qu'ils savent depuis toujours.
Et chaque dossier, d'ailleurs, il y a 70 000 plaintes en
Bien
cours
sûr.
Qui ne sont pas traitées, c'est énorme.
Et surtout, c'est une victime sur 10 qui porte plainte. Vous imaginez le fléau. Il y a un réel souci et de prévention et d'accompagnement et de justice. Donc aujourd'hui, forcément, Liana, c'est l'injustice de trop, la victime de trop, parce que avant Liana, il y a d'autres petites filles et d'autres petits garçons qui ont été tués par des pédocriminels récidivistes. Hein.
Une victime sur 10 qui porte plainte, Andréa Bescon, oui. Et on sait aussi que 80% des affaires sont classées sans suite. C'est ce que vous rappelez dans votre tribune. Donc on pose la question de la justice, bien entendu. L'argument de la justice engorgée, qui manque de moyens, qui priorise moins, ça ne suffit pas pour vous. Aujourd'hui, il faut se poser la question de choix entretenus par certains magistrats.
Alors oui, je pense que malheureusement la justice manque considérablement de moyens et qu'il y a des personnes qui sont très très motivées par le fait de rendre justice, ça c'est indéniable. Mais quand on a 10 juges pour 100 000 personnes, là où d'autres États en Europe en ont 18 pour 100 000 personnes, c'est sûr que les procureurs, les juges croulent sous les dossiers. Maintenant, il y a aussi des juges qui permettent à des pédocriminels de ressortir libres sans aucun dossier, parce que on sait que malheureusement les casiers judiciaires de ces personnes sont vides vu qu'il n'y a pas de condamnation, donc c'est un peu difficile.
Mais donc ça veut dire que la justice a un biais en matière de traitement des affaires de violence sur enfants.
Oui, mais c'est toute la chaîne judiciaire, ça commence au dépôt de plainte. Quand on parle de la formation des policiers, c'est 500 policiers qui ont été formés à l'accueil de la parole de l'enfant. Les salles Mélanie qui ont été mises en avant par Monsieur Nunez hier, les salles Mélanie, c'est 300 salles Mélanie pour le recueil de la parole de l'enfant en France. Bon, c'est très bien, hein, bien sûr, hein, de recueillir la parole de l'enfance avec bienveillance, c'est absolument nécessaire. Mais le problème, c'est que derrière, oui, ces plaintes sont classées sans suite.
Donc, si la parole est libérée, encore faut-il l'écouter, Andréa Bescon.
Oui, surtout simplement. Que c'est le traumatisme, il vient d'abord du viol, ensuite l'accueil de la parole. Bon, c'est une chose, mais il faut vraiment rendre justice à ces enfants qui ont le courage de parler.
D'un mot, Andréa Bescon, parce que vous avez évoqué les convocations de Gérald Darmanin qui reçoit les procureurs, l'annonce de 70 000 dossiers qui vont être analysés avant le 14 juillet. Vous l'aviez évoqué avec une certaine sévérité vis-à-vis du garde des Sceaux. Est-ce qu'à vos yeux, il doit démissionner?
Écoutez, je pense que le bon sens devrait l'amener à démissionner. J'ai interpellé le garde des Sceaux pas plus tard que la semaine dernière quand il a publié une vidéo officielle sur son compte Instagram pour dire que 3 enfants étaient victimes de pédocriminalité par semaine. Alors, j'ai dit, attention, c'est pas 3 enfants par semaine, c'est un euphémisme. C'est au moins un enfant toutes les 3 minutes. Donc c'est pas vraiment la même chose. Donc on a un problème aussi de compétence dans le domaine. Ce sont des gens qui ne s'intéressent pas à ces dossiers et qui sont dans l'émotion. C'est assez drôle parce que souvent on nous targue, nous, que ce soit les féministes ou les militants à l'enfance, de réagir en émotion, alors que nous, je vous dis, ça fait des années qu'on se documente, qu'on argumente, qu'on met en place des lois. Regardez, là il y a une proposition de loi intégrale, tout est fait, les articles sont écrits, il y a les préconisations de la CIVIS, enfin il y a un réel travail intellectuel de regard. Donc il n'y a pas de réaction à l'émotion. Par contre, eux sont dans l'émotion, étonnamment, ils nous accusent de l'être. Non, il n'y a pas les compétences. Malheureusement, on est quand même sur ces sujets-là entouré de dirigeants qui ne connaissent absolument pas les dossiers et qui s'en fichent un peu puisque ça fait des années qu'on les interpelle et qu'ils nous tournent le dos.
Et c'est un sujet que vous maîtrisez parfaitement, pour lequel vous avez les connaissances. Merci beaucoup, Andréa Bescon. Vous êtes réalisatrice, autrice. Vous avez été victime de viol dans votre enfance et vous avez mis votre histoire en scène dans la pièce Les Chatouilles ou La Danse de la Colère. Elle sera jouée le 10 juin, mercredi, aux Folies Bergères, au profit de la Fondation des Femmes. Il est 6h51.
Et Frédéric Chevalier, pardon, procureur de la République de Chartres, président de la Conférence nationale des procureurs de la République, sera l'invité d'Apolline tout à l'heure à 7h40. On continue sur ce dossier, bien entendu. Mais d'abord, la bande est là, avec Anthony Morel à ma droite, Virginie Fulpin à ma gauche.
C'est la causerie avec Virginie. Virginie, les Bleus disputent ce soir leur dernier match avant de partir pour la Coupe du Monde contre l'Irlande du Nord à Lille. Celui dont on parle le plus depuis le début de ce rassemblement, c'est Ryan Cherki et il apporte pas mal de fraîcheur.
Mais à 22 ans, l'attaquant de Manchester City va participer à sa première Coupe du Monde. Et en tant que petit nouveau, disons que sa communication n'est pas encore totalement maîtrisée. Franchement, ça fait du bien. Jeudi soir, après la défaite de l'équipe de France face à la Côte d'Ivoire, Ryan Cherki a étonné tout le monde au micro de TF1.
Comme je l'ai dit et je le répète, on n'ira pas à la Coupe du Monde pour être favori, on ira pour écraser tout le monde.
Mais qu'est-ce qu'il dit? Alors là, ça a été le branle-bas de combat dans le staff des Bleus. Enfin, on peut pas dire ça. On fait profil bas, les matchs les uns après les autres. L'important, c'est les trois points, tout ça. Didier Deschamps s'est même livré à une explication de texte. Ce que Ryan veut dire, c'est d'abord que l'équipe de France n'est pas favorite de la Coupe du Monde. Mais il veut faire le maximum pour gagner. Franchement, je préférais le côté brut de Ryan Cherki.
C'est pas mal. Il se fait remarquer au micro, mais aussi en photo.
Bon, vous avez pas pu la rater, hein. Évidemment, cette photo avec Emmanuel Macron et la ministre des Sports, Marina Ferrari, la semaine dernière à Clairefontaine, en bas à droite. Vous avez Ryan Cherki, là, dans une position un petit peu, voilà, surprenante, c'est pas très saillant. Ça a beaucoup fait rire ses coéquipiers, ça a beaucoup fait rire les réseaux sociaux. Mais Ryan Cherki, il a eu une explication parce qu'il dit qu'il était plus haut que la ministre et qu'il a voulu se baisser pour lui montrer son respect. Alors franchement, mignon. On ne peut pas se plaindre de ce genre d'attitude. Oui, c'est mignon.
Et puis sur le terrain, Ryan Cherki, il est aussi très visible.
Alors, il ne sera pas forcément titulaire ce soir contre l'Irlande du Nord, ça on verra, mais il a impressionné tout le monde malgré la défaite contre la Côte d'Ivoire. C'est lui qui a ouvert le score pour les Bleus avec un but sublime après avoir mystifié toute la défense adverse. Et on sait que c'est ça qui peut apporter à l'équipe de France Ryan Cherki, sa technique, son talent. Et à tout moment, bah, y a une action magique qui peut venir. Alors il peut bien avoir quelques phrases maladroites, on s'en fiche, non?
Mais non, on s'en fiche complètement, on en veut plus même. Merci beaucoup Virginie Fulpin. Et vous ne manquez rien de la Coupe du Monde avec les podcasts et l'application RMC, bien entendu, radio officielle de la Coupe du Monde, qui démarre dans seulement 3 jours maintenant. 3 jours, c'est parti.
Il est 6h53 et on se pose une question ce matin avec Anthony Morel. Est-ce qu'il faut faire une pause mondiale dans le développement de l'intelligence artificielle? Question posée par Anthropic, l'un des géants mondiaux du secteur, l'entreprise qui met en garde contre un risque de perte de contrôle, Anthony.
Oui, c'est ça. Pardon. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Je ne voulais pas casser l'ambiance, mais effectivement, alors c'est l'un des cofondateurs Anthropic qui a cette phrase qui résume assez bien la situation. Le secteur de l'IA a une pédale d'accélérateur, mais elle n'a pas de pédale de frein. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on le constate tous les jours, et je vous en parle régulièrement, on a des modèles qui sont toujours plus puissants, toujours plus performants pour écrire, pour coder, pour raisonner, mais ils posent des questions auxquelles on n'a pas les réponses sur l'impact social, l'impact environnemental, l'impact éthique également. On a des géants de la tech qui, il y a encore quelques jours, pour vous donner un exemple concret, ont mis en garde les politiques du monde entier contre les risques d'armes biologiques qu'on pourrait développer en utilisant l'intelligence artificielle. Wow. Voilà, c'est juste, voilà, c'est pas pour vous faire piper, mais c'est pour vous dire, et pourtant, on continue à accélérer sans se poser plus de questions. Et ça va encore plus loin que ça. Anthropic nous dit, attention à la perte de contrôle. Attention parce que ces IA, elles pourraient à un moment, eh bien, développer elles-mêmes leurs propres successeurs. Des IA qui seraient encore plus performantes.
Qui seraient dépassées par une autre IA.
C'est exactement ça, en fait. C'est le truc, c'est l'IA qui serait capable de s'auto-améliorer. Alors là, on entre en terra incognita, hein, vraiment terre inconnue. C'est des IA qui pourraient à la fois, maintenant. Oui, en latin en plus, inventer des nouveaux types de médicaments, génial, mais qui pourraient aussi, eh bien, devenir tellement compétentes que nous, pauvres humains, ne serons plus capables de comprendre comment elles raisonnent. Et là, on est vraiment bah, complètement dans l'inconnu, quoi.
Mais d'un mot, on y croit.
C'est très compliqué.
De l'accélérateur.
C'est très très compliqué. En fait, Anthropic dit qu'il faudrait mettre en place des systèmes un peu comme les systèmes d'anti-prolifération nucléaire. Vous savez, ouais. Voilà, une coordination mondiale où on accepterait de tous appuyer en même temps sur la pédale de frein. La réalité, c'est qu'avant que la Chine et les États-Unis acceptent en même temps, que des centaines d'entreprises privées voilà. acceptent ouais. en même
mais
temps
la marmotte, de. La marmotte, elle aura remis le chocolat dans le papier.
Voilà, c'est un peu ça. Malheureusement, ça va être très 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 compliqué.
Merci Anthony.
Bonjour Apolline. Salut à tous. Excellent lundi. Courage. Oui, c'est lundi, mais on est ensemble. Et on est ensemble jusqu'à 9h. Je prends le relais dans un instant. Il y a plusieurs questions à la une. D'abord, une question très pratique pour vous qui nous écoutez et qui êtes peut-être client SFR. SFR va être acheté par ses concurrents. Est-ce que les prix vont augmenter pour tout le monde? Vous aurez des réponses dans cette matinale et vous n'hésitez pas à nous appeler au 3216 si vous faites partie des 25 millions de clients SFR. On va revenir évidemment aussi sur l'émotion immense après la mort de Liana et le fiasco de la justice. Ou vous voulez nous alerter sur tout autre sujet, vous n'hésitez pas, quoi qu'il arrive, le 32-16 est là pour vous. A tout de suite.
5-7, le Morning RMC.